Bon midi, guys! Merci d'être à l'antenne de Boulevard 101. C'est tellement apprécié de vous savoir là. Hier à midi, ça a été un pic du jamais vu sur le streaming à l'émission On en jase. Alors, merci de nous faire confiance. On aime jaser d'actualité avec vous. On aime analyser la politique. On sent que c'est réciproque. Vous aimez nous entendre. Alors, franchement, un très, 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 très grand merci de nous faire confiance. D'ailleurs, 418-971-1021. Je fais comme hier, je prends une présence avec une petite question facile. Vous répondez par oui ou non. Est-ce que la CAQ est brûlée, même avec un nouveau chef dans la région de Québec? Donc, est-ce que vous allez... Il y a des chances que vous votiez pour la CAQ avec un nouveau chef. Vous répondez oui. S'il n'y a pas de chance, vous répondez non. Je veux voir à quel point la CAQ s'est brûlée avec son histoire de troisième lien qui font pas dans la région de Québec et avec un bilan, on ne se le cachera pas, très mitigé dans la région de Québec. On en a parlé d'ailleurs hier avec Claude Villeneuve. Ça se retrouve sur le blvd.fm. Tous nos meilleurs moments se retrouvent là. Et également, c'est une belle façon de nous écouter avec la web radio. L'application Boulevard, App Store, Google Play Store, Boulevard 102.1, meilleure façon de nous écouter partout où vous allez. Je donne mon exemple. M'en vais à la Pocatière en tournoi de hockey, moi, en fin de semaine. Ben, je vais l'écouter comment, Boulevard, vous pensez? Avec l'application que j'ai sur mon téléphone.
Pis ça se fait, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Puis en plus, sur l'application, vous avez tous nos meilleurs segments disponibles.
Twitch.tv/BLVD/FM. J'en parlais avec Yannick Marceau ce matin. Le matin, on n'a quasiment pas de monde sur Twitch. Pourquoi? Parce qu'on est trois poilus.
Ils veulent pas vous voir.
Exactement. Mais dès qu'il y a une voix féminine qui arrive en onde, oh là, les gens se lancent
sur Twitch. Ça devient plus intéressant.
Ben, ça tombe bien, Anthony Niacarini est là présentement. Donc, vous pouvez aller sur Twitch. Je suis tellement macho quand je suis.
Montre pas trop les attentes non plus. Là. Moi, j'ai dormi 4 heures. Ouais, là, fait que je me suis pas arrangé pour vous autres. Vous pouvez venir voir de quoi j'ai l'air, si vous voulez.
Également, allez vous abonner à notre page YouTube. Vous retrouvez nos podcasts, notamment, qui sont là, les grands événements de Denis Gravel. On est en train d'enregistrer une nouvelle série de podcasts dans la série hors-série. J'en ai enregistré deux. Abonnez-vous à la page YouTube. Honnêtement, c'est deux podcasts que j'ai adoré faire. Un avec Josh Chinoski, qui a été battu pendant des années par le pasteur Claude Guillot. Donc, c'est une histoire épouvantable. C'est à vous dresser le poil sur les bras. Alors, ça sera diffusé au mois de février. Et également, qui sera diffusé le 2 février prochain dans la semaine de prévention du suicide. J'ai jasé avec Éric Légaré, qui est le porte-parole pour l'Association du suicide du Québec, mais surtout mon cousin. Puis on a jasé de nos histoires de suicide. On s'est mis à cœur ouvert avec vous. Donc, Laurence, à la promo, qui enregistrait le podcast, elle dit « Ouais, les boys, vous êtes venus me chercher au plus profond de mes émotions. » Il y a des beaux petits moments émotifs dans ce podcast. Alors, allez vous abonner tout de suite à la page YouTube, puis vous allez pouvoir écouter ça en février sans problème. Mathias Turcotte, je te salue.
Yes.
Et t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe parce que t'es allé courir après les ministres. Si les ministres de la CAQ ne veulent pas nous parler, nous autres, on envoie Mathias, puis il va, c'est la police ICE de Boulevard 102.
Je sais pas, était pas, c'est un titre que ça me tente d'avoir.
Non, ouais, non, Mathias.
OK, c'est la seule fois que je dis ça.
Ah oui, non, il y avait une conférence de presse ce matin pour présenter la vision Ville-Port, donc une vision d'une collaboration entre la Ville de Québec et le Port de Québec sur une dizaine d'années. Ce que ça annonçait ce matin, c'était concrètement pas grand-chose, je vais être honnête avec vous autres. C'est plus une collaboration entre les deux pour réaliser des projets, puis continuer l'effervescence, puis de se faire connaître mondialement. On avait notamment le Réseau mondial des villes portuaires qui était présent, et Québec va devenir une antenne au sein de ce réseau-là. Donc, il va avoir une représentante et tout. Donc, ça fait quand même de la belle visibilité mondiale pour la ville de Québec. Mais concrètement, il n'y a pas eu de grosses annonces. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est à retenir surtout, le ministre Simard, Jean-François Simard, ministre responsable de la Capitale-Nationale, était présent et bien sûr a participé à la conférence.
Vas-tu lancer?
Et Bernard Drainville aussi. Ben là, c'est ça. Jean-François Simard, parce qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent depuis hier.
Ben
Bernard
oui.
Drainville, Christine Fréchette.
Geneviève Simon, exact. Jolin Barrette. Hey, là, il y a des gens qui nous disent « Jolin Barrette ira pas, sa blonde veut pas. Ah là, les potins, c'est le fun. »
Puis là, Jean-François Simard s'est fait demander aujourd'hui « Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il se lance? » Puis je vais vous sortir l'extrait tout à l'heure, là. Mais à ma grande surprise, il n'a pas fermé la porte. Il n'a pas nécessairement ouverte, mais il a dit qu'il était en train d'y réfléchir. Il a même dit que, bon, il y a certains de nos amis, de nos proches qui nous en parlent, puis c'est sûr, ça pousse à la réflexion.
Donc, Antonine, je te pose la question. Il y a toujours des outsiders, là, même, qui arrivent. Il y a eu un Marc Bélanger puis un Mario Roy dans la course au PLQ, là.
Oui, effectivement. Puis une course à la chefferie, même si... tu t'embarques dans la course et t'as pas de garantie, même des fois pas de chance de gagner, ben c'est quand même une occasion de se faire connaître, de se positionner. Puis des fois, ces gens-là ne terminent pas la course, ils décident de se lancer, mais deviennent un appui plus important qu'un autre député,
c'est
par exemple.
C'est vrai! T'as entièrement raison!
Mais en ce moment, premièrement, tu sais, je veux dire, M. Legault a démissionné hier.
Oui.
Fait que, tu sais, le corps n'est pas encore refroidi. Donc, c'est sûr que ce serait peut-être prématuré de fermer des portes. Mais en même temps, tu je pense qu'il y a un peu de « j'aime ça que mon nom circule », puis j'aimerais ça faire partie du petit tableau, là, quand vous parlez des candidats potentiels. Tu sais, il y a des gens qui font circuler leur nom exprès, là, tu sais.
Pour
hier,
avoir plus de notoriété.
Moi, j'aime ça. Oui, mais moi, j'aime ça des courses à 5-6, là. Ça brasse des idées nouvelles. C'est le fun.
Ouais, c'est juste que là, en tout cas, on en reparle tantôt, là, mais si on se fie aux rumeurs, ça va être une course à 12, là.
Puis, rapidement, parce que tu vas nous présenter des extraits tantôt, puis je veux pas qu'on brûle toutes les punches. Ouais. Bernard Drainville, j'imagine, n'a pas fermé la porte non plus.
Il a pas fermé la porte, il a pas ouvert sa 8 ans. T'es pas temps de répondre aux questions des journalistes, pour vrai, aujourd'hui. Là. Il a fallu convaincre pendant 2-3 minutes avant qu'il accepte de faire le scrum. Puis,
il soupirait beaucoup,
ben,
j'imagine.
Ouais, puis c'était pas des grosses réponses. Il a pas trop eu le choix, en fait, parce qu'il s'est ramassé avec une quinzaine de micros autour de lui. Fait que dans ce temps-là, ben... tu réponds
t'as
aux questions.
Non, c'est
ça. Et ça, là, ça illustre très bien le défi dans les prochaines semaines. Tu peux pas faire une annonce sur autre chose. Je voyais aussi dans le fil de presse, il y a une conférence de presse de Christine Fréchette cet après-midi. Voyons, c'est sûr, toutes les questions vont porter sa course à la
c'est
direction.
Clair. Surtout que Gilles Bélanger lui a déjà donné son appui.
Ouais. On en reparle.
Ouais, le cadavre est même pas froidi, comme tu dis. Jusqu'à présent, vous êtes 95% des auditeurs de Boulevard à nous dire « Fini la CAQ, ça va être le PQ, le Parti libéral ou le PCQ. C'est terminé la CAQ pour nous. » Donc, continuez à nous écrire au 418-971-1021. On passe au caucus.
Le caucus.
Boulevard.
Le caucus.
102-1.
Voici Antonin Iaccarini.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Votre moment préféré du show, je dirais, parce qu'il y avait tellement de monde hier sur le streaming, du lundi au jeudi, de midi à 12h30. Puis ils ont bien raison que c'est le moment préféré du show, parce qu'en tout, tu fais une méchante bonne job. Merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous autres. Puis c'est vrai que c'est un moment bien, bien particulier en politique quand même. Là, ça n'arrive pas à tous les jours.
Non.
Là, je dis ça n'arrive pas à tous les jours. En ce moment, il y en a souvent des bombes politiques. Mais la démission d'un premier ministre en fonction...
Ben, on remonte à 2001 avec Lucien Bouchard.
Ben, c'est ça. Là, je sais qu'il y en a eu une l'an passé au fédéral, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que les affaires de l'État, c'est sûr qu'au fédéral, ça nous touche moins dans notre quotidien. Alors que là, on est au Québec, l'État gère beaucoup de choses qui nous touchent vraiment à tous les jours, chacun d'entre nous. Ça va être spécial dans les prochaines semaines. Il faut que les gens soient conscients. On n'est pas dans une période normale. C'est pour ça que le premier ministre a décidé de rester aussi. C'est qu'il y a quand même pas mal d'affaires à gérer malgré tout.
Mm-hmm.
Même si on se dit il y a quelques instants, à chaque fois que les ministres vont vouloir sortir sur quelque chose, ils vont se faire parler de la course à la chefferie. Il faut quand même continuer de gérer le gouvernement. Là.
Oui, et pour une course à la chefferie avec un premier ministre qui démissionne, il faut remonter à 1985, alors que Pierre-Marc Johnson avait battu Pauline Marois et Jean Garon pour prendre le poste de premier ministre à la place de René Lévesque. Et il a mangé une méchante volée deux mois plus tard par le Parti libéral.
Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire le parallèle avec la situation qui va arriver maintenant.
Ben oui.
Parce que pourquoi ça se bat au portillon en ce moment, puis qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se présenter pour la course, c'est parce que tu vas devenir premier ministre.
Exactement.
Même si c'est pour 7 mois, là, mettons, ou 6 mois, ou quand on verra les règles de la course à la chefferie, tu vas avoir ta photo pareil dans la liste.
Oui,
hein?
comme Pierre-Marc Johnson, même si ça a duré deux mois et quelques jours.
Ça a duré deux mois, il se fait huer dans les conseils nationaux du PQ, mais il y a eu une méchante belle carrière après, ça, je peux t'en passer à papier.
Exactement. Les autres, c'était la démission de Jacques Parizeau, fracassante après le référendum de 95. Ça a été un couronnement de Lucien Bouchard qui a gagné ses élections suivantes contre Jean Charest, mais avec un parti libéral qui avait eu plus de votes au pourcentage que le PQ.
Oui, ça, des fois, c'est les distorsions de notre système démocratique.
Et par la suite, Lucien Bouchard démissionné en 2001, couronnement de Bernard Landry, puis lui aussi, deux ans plus tard, il s'est fait sacrer une volée par Jean Charest.
Il y a un super bon documentaire qui s'appelle « À hauteur d'homme », qui n'est pas facile à trouver, mais qui est très bon si vous voulez un bon documentaire politique québécois.
Ah, ben oui, je vais aller écouter ça certainement. Et tout ça pour dire qu'on va parler avec Louise Arel tout à l'heure à la fin de l'émission. Louise Arel, qui est une ancienne ministre, notamment des Affaires municipales. Elle a été chef aussi par intérim du
PQ. Après le départ de M. Landry.
Et on veut revenir sur 2001, la démission de Lucien Bouchard. On veut voir dans les coulisses comment ça se trame. Parce que là, c'est sûr, t'sais, on ne sait pas trop comment ça se trame dans les coulisses de la CAQ. Puis c'est bien normal. Là. Mais des fois, l'histoire se répète quand il arrive quelque chose,
un événement particulier comme ça. D'avoir la perspective de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Moi, quand j'étais jeune attachée de presse, j'avais eu une formation par une ancienne attachée de presse, Christiane Miville-Deschenes, qui était l'attachée de presse de Lucien Bouchard.
Oh,
et elle m'avait raconté un peu de l'intérieur, comment ça s'était passé, cette journée de démission de Lucien Bouchard. Et c'est des journées vraiment spéciales. Puis, tu sais, hier, on était en onde en émission spéciale, puis moi, j'avais vraiment une pensée pour le staff. Mm-hmm. Puis les élus aussi autour, mais c'est des journées vraiment bizarres. Oui. Là. Imaginez l'ambiance dans les heures précédant la conférence de presse, quand tout le monde sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est des moments historiques, mais c'est des moments aussi très humains et émotifs.
D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier, je vais te le dire, parce que j'ai énormément de respect pour tout le monde qui travaille en politique. Autant les politiciens que le staff. Puis peut-être encore plus le staff, parce que Colin, tu le sais, tu l'as fait, je ne l'ai pas fait, moi. Mais vous dépensez tellement d'heures sans être jamais à l'avant-plan.
T'as jamais la gloire, là.
T'as jamais la gloire, non. Mais t'es toujours là. J'ai écrit à Christine Hamel, l'attachée de presse de...
Catherine,
je m'excuse. L'attachée de presse de François Legault hier pour lui dire « Hey, je pense à toi, je pense à toute l'équipe. Lâchez pas, je sais que c'est une journée difficile pour vous, mais continuez votre excellent travail. » Hey, elle m'a répondu tout de suite en disant « Hey, wow, merci, t'es donc bien gentil. » Mais c'est vrai, c'est vous êtes des gens, puis je dis vous parce que tu en as fait partie. Vous êtes des bibites politiques, vous êtes des gens qui comptaient pas vos heures, qui donnaient du temps, puis toujours du temps dans le but que la société aille mieux. T'sais, c'est pas vrai, il n'y a pas un politicien, puis il n'y a pas personne en politique qui fait une job pour dire hey, « je veux que la société mange la colle ».
Non, il y a des gens qui vont en politique parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir. Ça peut arriver.
Ça, c'est vrai. Donald Trump, oh, excuse.
Ouais, c'est ça. Ça arrive, OK? Mais c'est pas la majorité, et surtout pas dans les employés politique. Parce
ben
que, je veux dire, l'aspect un peu plus mégalo, narcissique, je veux dire, t'es pas dans la lumière. Fait que c'est pas ça qui motive l'engagement politique de ces personnes-là. Et tout particulièrement, honnêtement, je prêche pour ma paroisse, mais le staff de communication. Mm-hmm. T'es pris entre les journalistes et les élus, OK? Tu te fais engueuler des fois. Tu te fais engueuler par ton ministre quand l'article est pas bon. Tu te fais engueuler par le journaliste quand ton ministre répond pas. C'est pas une job qui est facile. Mm-hmm. Et quand vient le temps de dire bravo quand quelque chose va bien, là, c'est jamais les communications. Mais quand ça va mal, par exemple.
Ben oui.
Ah, c'est parce qu'on a mal communiqué. C'est la faute des coms.
Tu dis, toi, moi, j'ai travaillé au RTC dans le département des communications. Je suis au service à la clientèle, je gérais les plaintes. Et boboy, on avait rarement des félicitations, mais quand il y avait de quoi qui sortait, là, hey, ma gang de pas bon communication, oui. Allez-vous régler ça?
Ben quand c'est bon, c'est les porte-paroles, c'est les boss.
Ben
t'sais.
Oui.
Mais
ben
quand
oui,
c'est pas
ben
bon,
oui.
C'est les coms.
Ah,
fait
c'est
que
comme,
une
non,
pensée
non.
Pour le staff de com, effectivement, puis bravo d'avoir envoyé un petit mot à l'attaché de presse.
Une pensée à tous les attachés de presse que j'ai harcelé hier pour avoir des entrevues. J'ai pas réussi, mais au moins, moi, je suis le genre de gars qui répond toujours hey, merci beaucoup de m'avoir répondu, je comprends, on se reprend. J'aime pas, je veux pas être bitch avec ces gens-là, puis je veux pas être
avoir
dur.
De l'empathie, là. C'est bon tout le temps.
Ben
okay?
Non, mais
tu veux ton entrevue, mais tu comprends aussi que c'est peut-être pas une journée facile, puis que peut-être que le téléphone sonne beaucoup, puis que ça devait être une grosse journée.
Ça.
Fait que c'est le fun d'avoir un peu d'humanité.
Ouais, tu sais, j'ai texté deux fois l'attaché de presse de Simon Jolin Barrette hier en me disant il n'y a pas grand-chance que Jolin en entrevue. Il m'a répondu un matin en me disant ça sera pas possible. J'étais juste content qu'il me réponde. J'ai dit oh, au moins j'existe encore.
Un gars s'essaye. Puis parlant de côté plus humain, je voulais revenir avec toi sur un peu le processus qui a mené à la décision de M. Legault, parce qu'on a appris un peu plus de détails, évidemment, dans les heures suivantes. On a été un peu pris de court, il faut le dire, là, parce qu'on se doutait que ça allait arriver. Mais on n'avait pas, on l'a pas préparé. On est rentré en onde à chaud. On avait beaucoup de questions puis pas de réponses. Donc, on en sait un petit peu plus. Il semblerait que la réflexion de M. Legault avait commencé dès l'été passé, mais c'est une réflexion en continu. Moi, je pense que la réflexion a eu lieu aussi quand le parti a décidé de préparer des règles de course à la chefferie dont on avait parlé il y a quelques temps ensemble.
Par contre, c'est les bonnes périodes, l'été, la période des fêtes,
et voilà,
pour prendre cette sorte de décision-là. Et pas juste pour un premier ministre. N'importe qui a un job,
ben oui,
à l'été, pour le temps des fêtes, on s'en pose toujours la question.
On réfléchit.
Moi, je suis heureux, c'est-tu la job que je veux faire? T'sais, on fait toujours. Là.
C'est ça. Stop ou encore, comme dirait l'autre chanteur. Donc, il y a une réflexion qui s'est faite cet été. Les proches conseillers de M. Legault, ils ont un peu passé le message en disant, ben là, ce serait le temps de se décider. Là. On arrête ou on continue. Et il a décidé de donner un dernier coup. Donc, je donne le tout pour le tout pendant l'automne. Puis c'est là qu'on a vu là, le gros brassage, le remaniement ministériel, la nouvelle vision économique, les priorités, un paquet de projets de loi, etc. Donc, le but, c'était un peu de se mettre « all-in », comme on dit, au poker, et d'essayer de faire bouger l'aiguille et de voir si c'était possible de se sortir la tête de l'eau. Et le premier ministre est arrivé à l'évidence, ça ne bougeait pas. Dans sa tournée d'entrevue qu'il a fait avant Noël, dans laquelle il disait « je reste », il le croyait encore. Mais je pense que ça prenait la période des fêtes, comme tu dis, pour avoir à la tête reposée, discussion avec ses proches, etc. Puis aussi, tu sais, dans le quotidien, quand tu es entouré de tes employés, bien, c'est tes employés. Fait que, oui, ils te donnent... Il y en a dans ça qui vont être des gens qui vont dire ben, « t'es bon tout le temps, puis t'as raison », mais il y en a toujours qui sont très honnêtes, avec lesquels t'as une relation franche et directe, mais il y a un attachement tellement émotif qu'à un moment donné, c'est le fun aussi d'avoir des discussions avec des gens qui n'ont pas le nez dedans puis qui ne sont pas dans le bureau avec toi au quotidien. T'sais.
C'est tellement bon ce que tu dis. J'invite les gens à les réécouter si vous ne l'avez pas entendu hier à notre émission sur blvd.fm. Étienne-Alexandre Beauregard, ce jeune garçon qui a 21 ans, écrivait les discours pour François Legault. La première question que je lui ai posée, c'est ça. Quel être humain est François Legault? Il a dit, c'est tellement un bon monsieur.
C'est une bonne personne.
C'est tellement un bon père de famille. J'ai tellement appris aux côtés de lui. Il a été hyper pédagogue avec moi. Donc, c'est dur quand ça fait 8 ans, 12 ans que tu es avec François Legault.
Les gens ont de la peine pour lui. Là,
ben oui,
moment,
de
là.
Lui dire « Hey, faut que vous quittiez, M. Legault. Vous avez créé la CAQ. »
On vous doit tout.
On vous
nos
doit
jobs,
tout.
Les élus qui se sont fait élire, c'est grâce à M.
Ben
Legault.
Oui.
Mais là, ça serait le temps de partir.
Parce
M.
que
M.
c'est
Legault,
dur. T'sais. Pourquoi? Parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, il y en a qui vont faire de la politique et pas beaucoup, mais il y en a qui vont le faire pour le pouvoir. Ça, c'est facile de dire, sac ton camp, ça fait 3 ans que tu me fais
chier.
Ça fait 3 ans que tu me fais chier, sac ton camp. Mais quelqu'un que ça fait 10, 12 ans que tu es en relation avec et que tu aimes profondément parce que c'est une bonne personne.
Et pour laquelle tu as un grand respect. M. Legault est en politique depuis 28 ans. Pour qui tu te prends, toi, jeune conseiller, que ça fait 4 ans que tu fais ça? Tu comprends?
Ben,
à un moment donné, il y a comme quelque chose de difficile. Donc,
puis je
pousse-tu
ma comparaison trop loin si je te dis les employés qui sont avec lui depuis le début de la CAQ, là, c'est un peu comme quand tu es en relation de couple.
Ben oui.
T'as des enfants, puis là, tu dis ouais, il faudrait que je mette fin à ça. Et t'offre en tabarouette.
C'est
là.
Vraiment extrêmement difficile comme décision. Puis c'est sûr, quand on fait des vox pop, puis le monde, c'est le temps qu'il s'en aille. Nous aussi, on disait ça, là. Mais une fois qu'on se met dans ses shorts à lui et dans les souliers des gens qui l'entourent, c'est vraiment pas évident. Donc, le temps des fêtes, M. Legault a pris le temps, avec son épouse Isabelle, ses fils, de vraiment sous-peser là, cette situation-là. Et la conclusion de cette discussion-là a été que c'était la fin pour M. Legault. Et quand il est revenu là, de ses vacances, ben, il a commencé à écrire lui-même son allocution de démission. D'habitude, c'est Stéphane Gobeil qui écrit ses allocutions. Ben, là, c'est une allocution que tu écris toi-même, surtout qu'il n'a pas mis tout de suite dans le coup ses proches collaborateurs. Il a commencé lui-même son processus et par la suite a averti là, sa garde rapprochée autour du début de la semaine, autour de lundi. Moi, j'ai des gens qui me disent que, par exemple, il y avait des dossiers en suivi avec le cabinet du premier ministre, puis lundi matin, c'était « business as usual », c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui laissait sous-entendre. Il n'y a personne qui disait « ouais, je te reviens, mais tu laisse-moi quelques jours ». Il n'y avait rien de ça. Donc, ça, d'après moi, ça devait être en fin de journée lundi que les choses se sont clarifiées. Et bon, la vie aux médias est sortie hier et on s'est tous douté que c'était ça. Je pense que le sondage Palace Data, qui mettait la CAQ à 11%, a confirmé que M. Legault avait pris la bonne décision. C'était le temps qu'il parte, qu'il ferme ce chapitre-là. Mais ça va nous amener vers les prochains mois. Parce que M. Legault reste premier ministre.
Bien, justement, je le rappelle, vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est du lundi au jeudi de midi à 12h30. C'est qui les candidats potentiels?
Bon, écoute, ça se bouscule au portillon pour devenir chef de la CAQ. Ça se bouscule au portillon pour devenir premier ministre. On va se le dire, il y a ça qui est alléchant parce que les défis sont grands pour la formation politique. Ça serait étonnant, ce serait un coup de maître de réussir à faire élire la CAQ en 2026 à l'élection en octobre prochain. Mais on le sait, rien n'est impossible. Depuis qu'on a vu Mike Carney l'année passée, on se garde une gêne. Mais c'est très alléchant, l'idée de devenir premier ministre, même pour quelques mois. Et de toute façon, même pour ce qui est de la CAQ et de sa survie, la CAQ est à zéro dans les projections de sièges.
Tu peux juste faire mieux.
Écoute, tu peux pas faire pire, là, à moins qu'on se mette à être dans le négatif. Là, je veux dire, tu ne peux qu'avoir amélioré le sort. Là. Ça dépend, ça va être de la gestion d'attente là, pour ce nouveau chef, cette nouvelle chef. Donc, évidemment, hier, toi puis moi, à chaud, on a parlé de deux candidats potentiels, Geneviève Guilbeault, Simon-Jolin Barrette. Denis avait apporté le nom de Bernard Drainville. Donc, je commence avec Geneviève Guilbeault. C'est une communicatrice qui est redoutable, très efficace, mais du côté des faiblesses, elle est en quelque sorte plus brûlée que certains autres de ses collègues à cause du troisième lien, à cause de sa clique.
Ouais, puis d'ailleurs, excellent article de Nicolas Lachance aujourd'hui qui mentionne que Geneviève Guilbeault a reçu justement l'information qu'elle serait blâmée dans le rapport Galant. Et on va avoir Nicolas avec nous immédiatement après le caucus.
Donc, Geneviève Guilbeault, ça va être un jeu complexe pour elle de naviguer à travers tout ça parce que elle ne peut pas complètement se dissocier du bilan de François Legault, évidemment. Elle a été une des joueuses majeures, mais elle va essayer. Donc là, déjà, on peut voir se dessiner à l'horizon que ça va jouer dur dans les prochaines semaines. Parce que Geneviève Guilbeault pourrait dire « on m'a obligée, c'était pas moi ». Elle pourrait commencer à lancer des gens en dessous de l'autobus. Il y a quelqu'un qui l'a lancé en dessous de l'autobus, visiblement, déjà. Donc, c'est déjà commencé. Elle est très active. Beaucoup d'appels qui ont été faits dans les derniers jours, des invitations à prendre des cafés, etc. Elle est en train de soupeser qui pourrait l'appuyer, etc. Donc, on surveille Geneviève Guilbeault, évidemment. Simon-Jolin Barrette, c'était ton poulain?
Oui, ça l'est encore.
Et ça l'est toujours. Par contre, ça semble plus compliqué pour lui de penser qu'il pourrait se lancer. Il semblerait qu'il y ait des hésitations. Il est toujours en réflexion. Du côté des forces pour Simon-Jolin Barrette, on en a parlé hier, mais c'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses. Comme ministre de la Justice, comme ministre de l'Immigration aussi auparavant, c'était le leader parlementaire de la CAQ. C'est un poids lourd et il avait l'air d'être un peu le successeur naturel de M. Legault. Par contre, du côté des faiblesses, pas une grande chaleur humaine.
Non, en effet.
Quand on parle de charisme, disons qu'il est un peu plus froid. Il y a même certaines personnes qui le trouvent baveux, arrogant.
Ouais, un peu trop pragmatique aussi pour passer auprès de la population générale.
Peut-être, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement cohérent et on sent très bien pourquoi il est en politique. J'ai plus de difficultés avec Geneviève Guilbeault sur cet aspect-là.
Petite parenthèse, David qui nous écrit, est-ce que le souvenir expérientiel va lui revenir dans le cas de Geneviève Guilbeault?
Ah oui, d'accord.
Tu tiens dans la commission Galant. Oui. Je n'ai pas le souvenir expérientiel que...
Oh mon Dieu, c'est une des bonnes citations.
Ça fait PSP, pas, hein?
Un petit peu, oui. Un petit peu. OK, prochain candidat, c'est Bernard Drainville. C'était le nom que Denis nous avait lancé hier. Il y pense. Moi, j'avais entendu dire qu'il n'irait pas, mais finalement, ça y tente aussi. Là. Fait qu'il pense à ça. Du côté des qualités, des forces pour Bernard Drainville, moi, je pense que l'authenticité et la chaleur humaine, on l'a plus là, du côté de Bernard Drainville. C'est un peu un style comme François Legault, hein, quand on y pense, qui parle de manière bien naturelle, très accessible, et il entretient des bonnes relations humaines à l'interne.
Oui, puis je pense qu'il est reconnu pour ça, puis même un peu trop par moment, justement, certaines citations qui sortent
comme
de
François
lui.
Comme François Legault,
exact,
hein?
Exact, c'est la même chose. Jeff, je t'ai sorti une cote de Bernard Drainville, justement. Il s'est fait demander tout à l'heure, c'était comme ça qu'il ressort, parce que comme j'ai dit, il était vraiment...
Ça y tentait pas.
Ouais, ça y tentait pas aujourd'hui. Il s'est fait demander si le prochain chef de la CAQ devait avoir un portefeuille économique, devait être bon en économie. Puis vous allez voir dans sa réponse, il n'a pas voulu répondre, mais pour une raison précise.
Écoutez, je veux pas répondre à cette question-là parce que ça m'engage justement à une discussion sur la suite. Et puis j'ai pas encore statué sur la suite. Donc, je suis pas encore en mesure de répondre à cette question-là.
C'est pas un...
Puis c'était un peu ça qui revenait tout au long du point de presse, vraiment. Puis ça revenait, c'était un peu ça, cette phrase-là de « je n'ai pas encore statué, je sais pas encore, ouais. j'ai pas encore décidé, je suis pas rendu là », il l'a dit à plusieurs reprises.
Mais c'est une bonne
aussi.
Ligne en passant, Mathias, parce que quand tu te fais poser la question, c'est vraiment une question piège. Parce que si tu fermes la porte, c'est « ferme la porte »,
c'est fini.
Ça devient une nouvelle. Puis si tu dis « je sais pas encore », ben il ne ferme pas la porte, il y songe et puis là on spécule et tout ça. Donc sa ligne aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'est je suis pas rendu là.
Exact.
Donc c'est pas j'y pense, c'est pas je ferme la porte, c'est je suis pas rendu là.
Anto, ça me fait penser est-ce que le premier qui va se lancer, on va attendre que de connaître les paramètres de la course avant quelqu'un se lance, parce que sinon ça serait mal vu en crime.
Oui puis non, parce que si tu te lances avant de connaître les règles, ça démontre une confiance et une solidité à tout rompre. Okay?
Parfait. Fait que là, si c'est pas l'homme blanc que tu nous as raconté hier, puis t'es Christine Fréchette qui se lance, ça veut dire que t'as confiance en ta barouette.
Exactement. Puis moi, j'avais entendu qu'il y avait une envie de se lancer dès cette semaine, mais qu'on se serait dit, bon, peut-être qu'on veut pas être les premiers. Fait qu'on va voir. Mais on ferait présentement du côté de Christine Fréchette. On va passer à.
Oui, parce
à
que là, je t'ai parlé de Christine Fréchette parce que hier soir, tu m'as texté pour me dire,
ouais.
Jeff. Christine Fréchette.
Ouais.
Ce matin, Marc-André Lotler, sur les ondes de Marceau le matin, a dit « Les gars, c'est Christine Fréchette la favorite. »
Oui.
Pourquoi?
Bon, Christine Fréchette, premièrement, elle est moins connue du grand public. C'est probablement sa faiblesse,
oui.
là, entre guillemets. C'est une faiblesse parce que hier, son nom n'est pas venu spontanément hein, quand on en a parlé. Donc, voit le problème que ça peut créer. Puis, en course à la chefferie, très, très vite, là, quand il va y avoir un premier sondage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dégage là, pour montrer qu'il est sérieux puis qu'il peut l'emporter. Donc, c'est une course avant la course. Ça. Cette course à montrer, à faire le plein d'appui, à montrer qu'on est solide, à montrer qu'on ramasse beaucoup de dons. Tout ça, ça va très vite. Christine Fréchette, bon, premièrement, elle a repris le dossier Économie-Énergie qui est un gigantesque dossier qui appartenait à qui? À Pierre Fitzgibbon, qui était pratiquement le numéro 2 du gouvernement. On peut parler de vice-première ministre puis de ministre des Finances, mais c'était Pierre Fitzgibbon.
Puis on s'entend, Fitzgibbon n'avait pas laissé la maison en ordre, puis elle a fait un excellent travail de ménagère.
Elle a un tableau sans faute. Nommez-moi une gaffe qu'elle a faite.
Zéro.
Un scandale qui la suit.
Zéro.
Puis... Elle sortait d'un poste qu'il y en a eu en masse, avec Fitzgibbon, on en a eu des scandales. Oh, oui. Oh,
donc, oui. Elle a fait un travail impeccable. Elle avait, au début du mandat, le dossier épineux de l'immigration. Elle a réussi à naviguer à travers ça sans... parce qu'en passant, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde en immigration, c'est impossible. Surtout à la CAQ, c'est plus polarisant un peu. Puis elle a réussi à naviguer à travers ça, à faire un sans-faute. Moi, ce qui s'intéresse beaucoup au dossier de l'immigration, j'ai travaillé à l'immigration, mais qui vient d'une famille de personnes immigrantes.
Ben oui.
Moi, le ton et la manière dont c'est géré, pour moi, c'est hyper important. J'ai été souvent fâchée par des propos de François Legault, de Simon-Jean Lebarrette ou de Jean-François Roberge. Jamais Christine Fréchette a dit un mot de travers. Elle est vraiment très, très habile. Et quand elle a récupéré le dossier de l'économie et de l'énergie, elle a continué de la même manière à travailler de façon très, très rigoureuse. Son défaut, c'est qu'elle est méconnue du public, mais elle est aussi méconnue, point. Dans le sens qu'on ne sait pas trop comment... Moi, j'essaie d'imaginer le genre de course à la direction qu'elle va faire, puis c'est un petit peu moins clair pour moi. Donc, on va continuer de surveiller ça, mais il y a déjà un appui. Gilles Bélanger, qui est ministre actuellement de cybersécurité et du numérique, c'est pas un grand ténor de la CAQ, mais quand même, déjà, deuxième journée, on a un appui. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, que je voyais aussi, moi, dans la course à la direction, a quand même pas mal fermé la porte hier, on va voir. Mais lui, il a vanté les qualités de Christine Fréchette. Il ne l'a pas appuyé encore officiellement. Donc, est-ce qu'on va vouloir donner un grand coup éventuellement, là, puis arriver, faire une annonce entourée de plein de ministres et de députés, peut-être de militants ou de personnalités de la CAQ? Moi, je m'attends à ça dans les prochains jours.
Rapidement, en terminant, j'ai deux questions pour toi. Premièrement, est-ce qu'il va y avoir un candidat de l'externe? Et deuxièmement, ça va-tu se tirer dans la boîte? Parce que j'ai l'impression que la CAQ a besoin d'une course sale pour revivre.
Personne. En fait, tout le monde va dire qu'il ne lancera pas de boîte. Mais regardez ce qui se passe avec l'article ce matin sur sa clique. T'sais, ça va être un peu difficile, évidemment, comme course à la direction. Oui, il pourrait avoir un candidat de l'extérieur. Moi, je ne l'exclus pas encore, mais là, demandez-moi pas qui, je ne le sais pas. Olivier Primeau, qui a laissé un peu circuler son nom, je pense pas que ça va arriver. Guy Cormier a fermé la porte à la politique cette semaine. Je pense pas que ça va arriver. Mario Dumont a fermé la porte. Mais qui sait? Mm-hmm. Hey, c'est une porte d'entrée pour le poste de premier ministre du Québec. Quand
Luc
même,
Poirier n'a pas répondu à ma demande d'entrevue.
Bon.
J'aurais aimé ça y jaser. Bon. Le milliardaire!
Le milliardaire. Donc, c'est possible.
Il était là, déçu de ne pas pouvoir aller au salon de l'auto de Montréal. Il écrit ça sur ses médias sociaux parce qu'il ne peut pas montrer ses 43 Ferrari puis Porsche.
Faudrait que le salon de l'auto se déroule chez eux.
Ouais, ça c'est ça. Plus simple. Peut-être qu'il ne sait pas vraiment c'est quoi le pouvoir d'achat puis les familles qui ont des besoins.
Ben, vous avez juste à écouter la télé-réalité. je ne me rappelle pas comment ça s'appelle.
Son documentaire, tu parles.
Il y a le documentaire, mais aussi la série. Il y a comme un reality show sur les femmes des femmes riches. Là, en tout cas, bref. Moi, j'écoute tellement pas la télé que je ne peux pas vous en parler plus qu'il faut, mais j'ai vu un bout d'épisode, puis Luc Poirier offrait un diamant gros comme à peu près la tête de ton micro à sa femme. Je termine rapidement, ouais. Jeff, juste pour te dire qu'on surveille les règles de la course à la chefferie. Puis quand même, juste nous mettre un petit quelque chose sur le radar, ça va être compliqué. Le premier ministre reste. On a des gens qui vont vouloir se dégager de son bilan. On pense à Geneviève Guilbeault notamment. Mais il va y avoir des périodes de questions. Là, c'est le PM qui va se lever. Il va y avoir des mails de presse. Qui va répondre? Il va y avoir des sujets d'actualité qu'on n'a pas vu venir. Qu'est-ce que le PM va dire? Est-ce que c'est différent de ce que les candidats à la chefferie vont répondre s'il y a une crise puis qu'il faut se positionner
rapidement?
Parce que
t'as pas le choix de te détacher du bilan de François Legault si tu vas essayer de passer dans l'électorat. Là.
Mais ça va créer vraiment des situations fort étranges. On surveille ça. Rapport Galland aussi qui va sortir éventuellement.
Le 13 février, que le gouvernement n'aura pas le choix de rendre public très rapidement également. Alors, non, on s'en va vers des mois politiques très, 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 très intéressants. Si on a pensé que 2025 en tôt, avec la démission de Justin Trudeau, les élections fédérales, Trump. Les élections municipales, Trump a été une grosse année politique.
On
n'a
rien
là,
vu.
Ça va brasser au provincial. Et faites-moi plaisir, là. Une vraie course, là. T'sais, faites-moi pas une course à la partie libérale où tout le monde essayait de pas trop se faire mal. Là. Non, 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 non.
Mais rappelle-toi ce que je t'avais dit. À l'époque, sur les courses à la chefferie, quand tu as un meneur clair, les gens font attention parce que tu le sais que ça va être le chef, donc tu le préserves. Mais quand c'est pas clair, c'est qui le gagnant, là, ça fait des courses qui sont un petit peu plus sales, qui brassent un peu plus. On verra.
Ah oui, rentrez-vous dedans, s'il vous plaît. On fait une courte pause. Non, mais c'est vrai, la CAQ a besoin de ça. Faut que la CAQ revive. Et pour revivre, ils n'auront pas le choix que ça explose leur course à la chefferie. On fait une courte pause. Nicolas Lachance, excellent journaliste au niveau du Journal de Québec sur la colline parlementaire, a sorti un papier en disant « Savez-vous quoi? Geneviève Guilbeault, elle va être blâmée dans le rapport Galland. » Donc, on va parler de ceci avec lui parce que Geneviève Guilbeault est un nom qui circule énormément pour la course à la chefferie. Et on va aussi parler de Serge Lamontagne. Qui est cet homme? Ben oui, vous l'avez pas, vous l'avez pas capté hier. C'est le nouveau PDG de la SAAC. Comment ça, personne n'a vu ça passer hier? Que s'est-il passé hier dans la stratosphère politique pour qu'on oublie que Serge Lamontagne va maintenant gérer la SAAC et sa clique? On jase de ça avec Nicolas Lachance immédiatement après cette courte pause sur Boulevard 101 à l'émission On en jase.
Jusqu'à 14h, On en jase.
Émission d'Angers, son émission du midi. Il est précisément midi 41 minutes. À la météo, il y a de l'accumulation de neige, les amis. 5 à 10 cm autant présentement, ce qui est en train de tomber, que ce soir, cette nuit. Et ça sera une faible neige chassant en mi-journée pour demain. C'est moins 1 degré aujourd'hui, mais moins 10 degrés demain. Moins 7 alternant soleil et nuages samedi. Moins 2 avec de la neige pour dimanche. Je vais vous dire bien honnêtement, quand on se regarde, quand on se compare, on se console, qu'on dit. Je regardais la façon qu'on a déneigé à Montréal. C'est atroce. Les gens sont prisonniers du centre-ville, pas capables de monter les côtes. Qu'est-ce qui se passe avec notre métropole?
Oui, puis pour vrai, juste faire un petit point rapidement sur le déneigement parce que je suis d'accord, puis je pense que tout le monde a remarqué, cette année, ça va pas bien. Le côté David de Québec, les trottoirs,
ouais,
les
routes. Oui, mais il y en a qui disent ça, mais moi, dans mon coin, ça va super bien.
Ben moi, dans mon secteur, je le sens, là, que c'est moins beau que ça l'était. Mais par contre, je repense à mes années à Jonquière, puis je me dis, Seigneur, ça reste beau quand même, là, pas vrai. Comme tu dis, quand on se compare, on se console.
Circulation, Mathias?
Oui, juste rapidement, il y a eu un accident sur Robert Bourassa, en fait, une sortie de route, la voie de droite qui était fermée. Maintenant, tout est résolu. Il y a quand même un léger ralentissement là, dans le secteur de Robert Bourassa autour de autour de Charest.
418-971-1021, oui ou non, êtes-vous satisfait du déneigement à Québec depuis le début de l'année? David qui écrit « Moi, ma piste cyclable est super déneigée. » Mais David m'a envoyé des photos comme quoi il patinait sur son trottoir en fin de semaine. Fait que bon, c'est la vie, c'est comme ça. On souhaiterait que les trottoirs soient déneigés avant les pistes cyclables. On va rejoindre immédiatement Nicolas Lachance, excellent journaliste sur la colline parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Il a sorti un excellent papier ce matin disant que Geneviève Guilbeault va être blâmée par le commissaire Galland lors de la sortie du rapport le 13 février prochain. Nicolas, merci d'être disponible pour l'émission Nageurs sur Boulevard 102.
Salut!
Nicolas, j'ai pas le choix de te poser la question. Comment t'as su ça? C'est un adversaire de la CAQ, un adversaire de Geneviève Guilbeault qui a dit « Publie ça, Nicolas! »
C'est particulier qu'au lendemain de la démission de M. Legault, c'est les premières informations qui sont venues à nos oreilles, alors que les avis ont commencé à être envoyés aux employés des cabinets et aux ministres, par exemple Geneviève Guilbeault, M. Bonnardel aussi, François Bonnardel, ex-ministre des Transports, a également reçu un avis, pas le même genre d'avis, mais un avis quand même, un préavis que le nom de M. Bonnardel allait apparaître sans doute dans le rapport final. Est-ce que c'est de bonne guerre? Disons ça comme ça. On sait que Mme Guilbeault a des intentions, qu'elle souhaite sans doute se lancer dans la course à la succession de M. Legault. Donc, aujourd'hui, il y a une roche dans son soulier, disons ça. Ce qu'on sait, c'est que l'avis va indiquer que une partie de son témoignage et une partie du témoignage d'anciennes personnes qui travaillaient à son cabinet est jugée non crédible. Donc, est-ce que vous voulez que je vous remette en contexte?
Non, c'est beau. Je n'ai pas le souvenir mais... expérientiel de.
Oui, il y a ça, mais il y a particulièrement l'aspect dépassement de coûts. Hein. Rappelons-nous qu'il y a environ un an, là, presque un an.
Les fameux napperons, Nicolas, qui étaient présentés autant à Mme Guilbeault qu'à son équipe.
Oui, mais il y a un an. Au dépôt du rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Tremblay, Mme Guilbeault avait déclaré qu'elle n'était pas au courant de l'augmentation des coûts, qu'elle n'était pas au courant des avenants, donc de l'argent supplémentaire qui avait été investi de 222 millions de dollars par fractionnement. Or, ce que la commission a prouvé devant elle, c'est qu'il y avait des preuves, des courriels même à son adresse personnelle, révélant qu'elle était au courant et que son équipe était au courant de tout ça dès l'été 2023. Donc, il y a 2 ans avant le rapport de la vérificatrice générale. Donc, elle a été un peu prise les deux mains dans le sac, comme on dit. Hein. C'est tout cet aspect-là qui semble ne pas avoir été cru pour l'instant par la commission Galland. Donc, ces avis-là, là, pourquoi ils ont été envoyés, c'est aussi ça. Bon, c'est des avis qu'on appelle de mauvaise conduite. Là. C'est l'article 88 de la commission Galland. Donc, on prévient les gens qu'ils pourraient être éclaboussés dans le rapport final et on leur donne l'occasion de peut-être engager un avocat et de venir contester.
Donc, c'est un peu, Nicolas, je fais le comparatif, c'est un peu comme quand tu reçois un acte d'accusation, là, tu vas aller te chercher un avocat, tu vas préparer ta défense, puis tu vas aller faire le plaidoyer de ta défense devant le juge ou devant le jury. Fait que c'est un peu le même principe. On t'avise que tu vas être blâmé, et là, bien, ça te donne un certain temps pour préparer ta défense.
Bien, ça ne veut pas dire que ça va apparaître dans le rapport final, mais on t'informe qu'il risque d'y avoir des informations concernant X points qui vont être te concernant, qui vont être mis dans ce rapport-là. Donc, la commission d'enquête est tenue, elle, de respecter les règles d'équité procédurale. Donc, ils restent prudents, puis ces personnes-là sont avisées, puis ils peuvent tenter de rectifier les faits une dernière fois avant la publication du rapport. Donc, ils sont venus témoigner, on a de la preuve, donc le rapport se prépare, puis bon, il y a des conclusions qui sont mises de l'avant, et on donne la chance aux gens qui vont être... On ne dit plus le mot blâmer, hein, il y a eu des procédures judiciaires là, qui ont été entamées à la suite de plusieurs commissions d'enquête publique. Donc maintenant, on doit dans le cas de la commission Galland, c'est mauvaise conduite, l'article, mais dans le fond, il y aurait des conclusions défavorables envers Mme Guilbeault, par exemple, son ex-directrice de cabinet, un ancien conseiller politique. Même chose pour, si on se rappelle, là, M. Bonnardel. Mm-hmm. M. Bonnardel serait pas, ce qu'on comprend...
Oui, ça touche plus son cabinet à lui que François Bonnardel.
M. Bonnardel a reçu un avis, mais il ne viendrait pas contredire ce que lui-même a dit devant la commission. D'ailleurs, ce matin encore, il rappelait que bon, il n'a pas été contredit, il n'a pas été contre-interrogé lors de la commission d'enquête. Par contre, sa directrice de cabinet de l'époque, Véronique Aubry, rappelons-nous, était intervenue directement dans les documents qui devaient être transmis aux élus de l'Assemblée nationale pour faire, en mai 2020, là, pour rendre des comptes concernant les coûts et le report de la livraison. Elle aurait omis de son plein gré, à la suite de discussions avec la SAQ, de ne pas mettre toutes les informations. Donc, les élus n'ont pas pu prendre connaissance de tout ça. C'est comme si on avait caché des informations aux élus. Ça reste que son supérieur, c'était M. Bonnardel. Donc, lui, qu'on répète depuis le début est-ce qu'on lui a caché des choses? Ben, peut-être, mais on ne l'a jamais informé de tout ça, tout comme l'explosion des coûts.
Mais dans le cas de Mme Guilbeault, par exemple, la commission sort, puis finalement, il y a plusieurs points qui lui sont défavorables, qui lui sont reprochés. Présentement, avec son passage, qu'on va se dire désastreux à la commission Gallant il y a de ça quelques mois, est-ce que ça peut vraiment avoir un rôle majeur dans l'opinion publique qui lui est portée ou son nom est déjà entaché?
C'est une très bonne question. Si Mme Guilbeault décide de se lancer à la course à la succession de M. Legault, on va le savoir assez rapidement. Est-ce qu'elle a des appuis au sein du caucus ou elle se fie principalement sur sa popularité dans la population, en région, auprès des membres? Reste que elle ne s'est pas fait que des amis au sein du caucus de la CAQ dans les dernières années, disons ça comme ça. Maintenant, Mme Guilbeault, est-ce que sa réputation est entachée? Elle a été renommée ministre au sein du Conseil des ministres malgré son passage à la commission d'enquête. Maintenant, ben, les avis sont là, on les a sus. C'est pas supposé être rendu public, mais bon, il y a eu des fuites, comme vous pouvez voir. Et là, le rapport de la commission Gallant sera déposé le 13 février prochain. En plein milieu de la course à la direction de la CAQ, donc à la succession de M. Legault, elle devra se défendre publiquement lorsque ça sera rendu public. Est-ce que c'est bon pour elle? Je vous renvoie la question.
Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est une énorme roche dans son soulier, exact. Selon moi, ou dans sa botte. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux terminer l'entretien avec toi, Nicolas, justement, en parlant d'une décision de Mme Guilbeault. Et je crois que tu étais à la même conférence de presse que moi. Geneviève Guilbeault, en plein mois de juillet, nous annonce qu'Annie Lafond est nommée directrice générale par intérim de la SAC. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si tu avais eu le même feeling que moi, mais moi, je me disais, ouais, Mme Lafond, l'on dit par intérim, mais elle va continuer de la façon que Geneviève Guilbeault avait vanté son CV, ses qualités de rassembleuse, ses qualités en marketing pour refaire l'image de la SAC.
Exactement. Donc, on voulait quelqu'un qui prenait conscience que la SAQ était en crise. Donc, on la nommait pour amorcer le redressement, faire le ménage. Clairement, c'était pas la personne que son successeur, Jonathan Julien...
Ben, c'est ce que j'allais dire.
...voulait, finalement.
Ben, c'est ça.
On a nommé une nouvelle personne, déjà.
Ben oui, parce que là, hier, puis c'est passé sous le radar, bien normal, là, François Legault démissionnait à 11h, là. Mais on a nommé Serge Lamontagne, un ancien de la Ville de Montréal, à titre de PDG de la SAC. Donc, il y a vraiment des batailles à l'interne au sein de la CAQ, là, pour que Mme Lafond ait déjà été remerciée de ses fonctions après 4 mois.
Ben, la démission de M. Legault va nous montrer à quel point il y a des batailles à l'interne. Il faut se rappeler que c'est une coalition, la coalition Avenir Québec. Hein? Il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes, il y a des gens qui sont plutôt axés seulement sur l'économie, il y a des nationalistes. Donc, qui va être capable? M. Legault était capable, c'était lui qui avait créé le mouvement. Donc, c'est son parti, il était capable de tenir tout ça ensemble, avait convaincu les gens qui sont aujourd'hui ministres de se lancer en politique. Alors, qui va être capable de tenir tout ça ensemble? Parce que t'as raison, l'exemple de la SAQ en est un. Donc, on venait de nommer Mme Lafond. Lorsqu'il y a eu le remaniement ministériel, j'étais tombé sur un appel de candidature pour un nouveau PDG. Donc, dès son entrée en fonction, M. Monsieur Jonathan Julien et la nouvelle présidente du conseil d'administration de la SAQ cherchaient, ont engagé des chasseurs de tête, cherchaient déjà quelqu'un d'autre pour la remplacer. On avait dit Madame Lafond peut appliquer sur le poste, mais on cherche quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va amener une nouvelle culture à l'intérieur de la SAQ. Et voilà, c'est pour ça qu'on a nommé qu'on a nommé un nouveau PDG pour le remplacer assez rapidement. Là. C'est assez exceptionnel. Puis bon, ben, on veut qu'il vienne. Bon, il vient, oui, de la ville de Montréal, ancien directeur général, et de Laval également. Donc, quelqu'un qui connaît bien les structures organisationnelles, serait habitué au changement, c'est ce qu'on nous vend. Et donc, dans la mission principale du nouveau PDG, c'est vraiment d'appliquer les recommandations, notamment celles de l'Autorité des marchés publics. Parce que rappelons-nous aussi que cette semaine, l'Autorité des marchés publics a donné une bonne gifle à la SAQ dans un rapport accablant. Moi, j'ai rarement vu ça.
Et là, même que la SAQ, Nicolas, va devoir rendre des comptes à l'AMP. Donc, c'est un peu comme une tutelle.
Oui, puis donc Serge Lamontagne, le nouveau PDG, arrive à ce moment-là. Donc, comme si la SAQ était déjà sous tutelle, devra rendre des comptes aux 6 mois à l'AMP, à l'Autorité des marchés publics, qui est le chien de garde des contrats. Et ça, c'est juste sur l'aspect contrat, hein, parce que si je reviens justement à la commission Galland, pourquoi Mme Guilbeault serait visée par des avis, c'est que le mandat de la commission Galland est beaucoup plus vaste que celui de l'AMP, qui est seulement axé sur les contrats. Donc, ce que l'AMP nous a appris, c'est que bon, il y a eu du favoritisme, du fractionnement, du manque de transparence, des irrégularités. C'est quelque chose, là, tout ce qu'on retrouve dans le rapport de l'Autorité des marchés publics. Maintenant, sur le côté, l'aspect politique, M. Galland devait faire le point sur qui savait quoi également. Donc, on va en apprendre plus. Et rappelons-nous, parce que si on fait le tour de la roue, c'est qu'il y a une enquête de l'UPAC dans le dossier. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations, surtout à la lecture du rapport de l'AMP? Donc, il y a clairement eu des irrégularités, du fractionnement et, je le répète, un manque de transparence. On a placé des gens dans des situations où qui devaient être confidentielles, puis il y a de l'information qui circulait par rapport à l'octroi, je vous rappelle, du plus gros contrat informatique de l'histoire du gouvernement du Québec. Un contrat de 638 millions, là.
Oui. Nicolas Lachance est journaliste sur la colline parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Nicolas, félicitations pour ta couverture dans le dossier Satlick. On va continuer à se parler. Puis merci aujourd'hui, hier, en pleine démission de François Legault, de nous avoir rappelé que ce dossier-là existe et que ce dossier-là est un véritable fiasco.
Oui, et aura un impact sur la future course. Merci beaucoup.
Ah, salut. C'est clair. Merci, Nicolas. On se reparle bientôt. Salut, merci beaucoup. Nicolas Lachance, si vous ne le lisez pas dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, allez le lire à chaque jour. Il y a des textes tellement intéressants et il a fait une couverture impeccable du dossier Satlick. Circulation, Mathias?
Oui, juste vous dire, en ce moment, sur Dufresne-Montmorency, en arrivant dans la Haute-Ville, donc en arrivant sur Honoré-Mercier, il y aurait un camion présentement pris dans une côte parce que c'est trop glissant. Donc, la voie de droite qui serait présentement bloquée, ça crée évidemment un léger ralentissement dans le secteur. Merci à Sébastien qui nous a écrit pour justement nous en informer. Si vous avez des informations sur la situation, 88-971-1021, juste vous informer également. Leur ancienne direction sud en arrivant sur Capitale, léger ralentissement.
Faites attention sur la route parce que c'est de l'accumulation de neige de 5 à 10 cm qui est prévue pour aujourd'hui, moins 1 degré, moins 10 degrés demain. Il va y avoir de la faible neige qui va cesser en mi-journée, mais il va y avoir une autre accumulation de 5 à 10 cm cette nuit, moins 7 degrés alternant soleil et nuages pour samedi, moins 2 degrés de la neige pour dimanche. Avant d'aller à la pause, Mathias, on écoute ensemble Jean-François Simard qui ne ferme pas la porte à une course à la chefferie.
C'est gentil de me poser la question. À ce stade-ci, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. J'ai beaucoup d'amis. Certains m'encouragent et puis il faut penser à ça. Mais pour l'instant, d'abord, moi, j'ai encore un peu le deuil à faire du départ de François Legault, qui est un ami, comme vous le savez, de 30 ans. Moi, j'ai été son premier adjoint parlementaire lorsqu'il a été nommé ministre de l'Éducation. On a cofondé ensemble la coalition Avenir Québec il y a 14 ans. J'ai eu l'honneur d'être nommé ministre avec lui.
Ça vous intéresse, lui, ou non, de vous lancer?
Non, moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de penser à une course au leadership au sein de laquelle on va débattre d'idées.
Je souhaite vraiment pour la CAQ, Mathias, qu'il y ait 5, 6, 7 candidats, qu'on ait des débats d'idées et qu'on replace cette formation politique-là sur l'échiquier politique.
Mais en même temps, 5, 6 candidats, faut que ça brasse, mais pas trop non plus. Faut le rappeler, c'est une coalition. Fait qu'il va falloir que quelqu'un arrive à la chefferie de ça puis réussisse à garder tout le monde ensemble. Mm-hmm. Fait que si on a passé une couple de mois à être 5-6 candidats, puis que la CAQ s'est séparée en 5-6 parties, puis que ça passe son temps à chicaner, je vois mal comment quelqu'un pourrait ressortir de là puis rallier tout le monde ensemble.
Ouais, d'un autre côté, ça pourrait donner un positionnement aussi, peut-être un petit peu mieux. C'est à suivre. Troisième lien, on écoute Bernard Drainville par rapport à ce projet.
Ben oui, l'échéancier, le calendrier qu'on s'est donné, le tracé que Jonathan doit annoncer, le budget cible, tout ça, c'est maintenu, là. En tout cas, si c'est pas maintenu, j'aimerais bien le savoir.
Monsieur Drainville, est-ce que vous croyez en disant ça?
Puis, je veux dire, j'ai trouvé ça drôle parce que quand il a dit « c'est maintenu, ça reste en place », puis ça se peut que Jonathan Julien fasse sa conférence. Dit pas, ça se pourrait très bien parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de nouveau chef. Le nouveau chef va-tu Bon, ça va être à voir. Mais dans tous les cas, je veux dire, Bernard Drainville, puis il a dit un peu plus tard dans sa conférence, il n'y a rien qui m'indique du contraire, Pourquoi on reculerait dans de projet parce que vous l'avez fait à plusieurs reprises.
Exactement.
Ce serait pas la première fois.
Puis ça va être une question de la course à la chefferie, le fameux troisième lien qui est très polarisant.
Aussi.
Qui est très polarisant à l'échelle de la province. Donc ça me surprendrait bien gros qu'on avance énormément dans ce dossier-là d'ici aux élections.
Et si un nouveau chef arrive à la CAQ et veut remonter la CAQ, est-ce que c'est vraiment stratégique promettre un troisième lien? Parce qu'en promettant un troisième lien, la région de Québec ne te croit pas de toute façon, étant donné que tu représentes la CAQ qui a reculé et avancé dans le projet à maintes reprises. Et en plus de ça, tu viens te mettre à dos le restant du Québec. Est-ce qu'il y a une optique de victoire ou de gain politique pour un futur chef de la CAQ de promettre un troisième lien?
Le seul gain politique serait de le promettre à l'Est et peut-être d'aller chercher là, des appuis dans Chaudière-Appalaches. Félix qui nous écrit, Sonia Lebel, prochaine chef, je vous l'aurais dit, ben tiens, 418-971-101, dites-nous qui vous voyez comme chef, futur chef, est-ce que c'est une candidate ou un candidat à la chefferie de la CAQ et ainsi... Votre nouvelle ou nouveau premier ministre, parce que pendant une certaine période, cette personne-là sera premier ministre jusqu'aux élections du 5 octobre 2026. On fait une courte pause à l'émission On en jase. Après la pause, on fait le tour des principales manchettes et Rémi Villemur s'installe avec nous. Rémi veut nous expliquer pourquoi dans 10 ans, les livres d'histoire vont nous dire que François Legault a été un bon premier ministre pour le Québec.
J'ai hâte en maudit
d'entendre ça, mais il a pas fait que des mauvaises choses, François Legault, donc j'ai vraiment hâte d'entendre l'argumentaire de Rémi Villemur. Restez avec nous. Boulevard 101, l'émission On en jase. On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement 13h07. 418-971-101. Les gens voient Sonia Lebel dans leur soupe, les auditeurs de Boulevard 102.1. On n'en a pas beaucoup parlé de Sonia Lebel, justement, avec Antonine Iaccarini. C'est intéressant d'avoir vos points de vue. BLVD.fm, c'est nos meilleurs moments qui se retrouvent là. C'est la web radio. BLVD 102.1, c'est l'application que tu télécharges immédiatement si tu ne l'as pas fait. Tu peux nous écouter partout où tu es. Moi, je vais écouter Boulevard de l'Apocatière en fin de semaine. Je vais me lever samedi matin, là, très tôt, parce qu'on joue à 8h, puis je vais mettre le rock and chill avec l'application. Oh, que ça va être parfait! Abonne-toi également à notre page YouTube. Tu as les podcasts qui joue en ondes, ben t'es là en version télé, donc en version imagée. Et twitch.tv/BLVD/FM. Merci, vous êtes plus qu'à l'habitude. Vous avez répondu à notre besoin, nous les hommes aussi, de performer devant la caméra. On a l'excellent Rémi Villemur en ligne à l'heure actuelle, mais Mathias, avant de parler avec Rémi, qui va nous expliquer pourquoi François Legault va passer à l'histoire, fais-nous les trois manchettes principales, s'il vous plaît, de la journée.
Oui, ben on a parlé de Sonia Lebel, qui est revenue beaucoup au sein de nos auditeurs, comme futur chef de la CAQ et ainsi première ministre. Mais le nom de Christine Fréchette ressort également. Elle a reçu quand même un bon appui aujourd'hui. C'est Gilles Bélanger, le ministre de la cybersécurité, qui a supporté la candidature de Christine Fréchette, que je l'appelle, n'est pas encore faite, là, mais qui dit que pour lui, elle est mûre pour une première ministre et qu'on a besoin d'un leadership féminin. Christine Fréchette, présentement ministre de l'économie l'économie de l'innovation et de l'énergie, qui est un nom qui ressort énormément dans cette future course à la chefferie du Parti libéral. Je passe au cas Susana Roca Cruz, qui fait beaucoup parler au cours des derniers jours. Cette femme de 44 ans qui est disparue, dont le corps a peut-être été retrouvé mardi. On n'a pas encore la confirmation que c'est le corps de la femme qui a été retrouvée dans le fleuve, mais tout porte à croire que oui. On apprend que l'homme qui a été arrêté, donc Abraham González León, âgé de 43 ans, qui est un proche de la victime, cet homme-là qui a été arrêté pour voie de fait ayant causé lésion, du moins c'est pour l'instant l'accusation qui lui a porté, était censé être expulsé du Québec depuis 3 ans. C'est ce qu'a appris le bureau d'enquête du Journal de Québec. Pourquoi cette personne-là aurait dû être expulsée du pays depuis maintenant 3 ans? La raison est inconnue, mais visiblement, l'homme qui résidait toujours au pays et qui est présentement accusé par le service de police de la ville de Québec. Je vous rappelle, Mark Carney qui se dirige du côté de la Chine pour les prochains jours. Selon le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, c'est une visite qui est très importante et qui marque un tournant dans les relations diplomatiques entre la Chine et le Canada. On sait que ce n'est pas nécessairement les relations qui se sont le mieux portées sous l'ère Justin Trudeau. La dernière visite de Justin Trudeau qui remontait justement en 2017. On va suivre ça de près, cette visite de Carney, parce que surtout dans le milieu agricole, de l'eau tarif qui sont présentement imposés par la Chine.
Il est animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis matins de 8h à 10h. Il écrit des livres, il fait des podcasts, il est partout, il est intéressant. Rémi Villemur est avec nous. Comment ça va, mon chum?
Ça va très bien, merci. Je fais mon épicerie aussi.
Tu fais ton épicerie aussi?
Oui, oui, ben c'est juste que là, avec la présentation que tu m'as faite, on a l'impression que j'étais un seigneur.
Oui, c'est ça. OK, tu fais encore ton épicerie, t'as encore besoin de prendre le transport en commun.
Le transport en commun, non.
Non? Pas de transport en commun?
Non, je marche, moi, je marche. Je fuis les cancers.
T'es comme Max Larouche, tu es un grand marcheur, et puis je vous salue les marcheurs. C'est une des meilleures façons de demeurer en forme, en plus. Donc, félicitations, messieurs. Rémi, t'as piqué ma curiosité quand tu m'as texté tantôt pour me dire, Jeff, je vais t'expliquer pourquoi dans 10 ans, on va se souvenir de François Legault comme un bon premier ministre. Et là, à première vue, j'ai dit, il est malade dans la tête, Rémi Villemur. Je ne peux pas le vanter comme je l'ai vanté dans sa présentation. Mais après coup, j'ai pensé à certaines thématiques. Et là, je te laisse aller parce que je veux voir si j'ai raison, puis je ne veux pas te le dire avant à quoi j'avais pensé. Donc, vas-y, explique-nous ça.
Tu veux voir si tu es capable de lire dans ma tête.
Ouais.
Écoute, premièrement, je veux juste noter une chose. À chaque fois qu'un premier ministre démissionne, c'est sûr que le lendemain, il y a plus de gens qui pensent que c'est un mauvais premier ministre qu'il y a de gens qui sont capables de dire « ou enfin ».
Ben c'est clair, sinon il n'y aurait pas démissionné.
Ben c'est ça. Donc, tu sais, je veux juste quand même nous inscrire dans un contexte qui est général. C'est pas la première fois qu'on est face à une situation pareille. Je rappelle que Philippe Couillard, les années d'austérité, s'était mis à dos à peu près tous les syndicats, toutes sortes de catégories de contribuables qui avaient accès à moins de services. Et aujourd'hui, quand on voit le déficit, on se dit « ouais, ça ne serait pas nécessaire un genre de ministre des Finances à la Carlos Letao qui reviendrait. » Donc, le temps fait généralement bien son travail et son œuvre. Concernant François Legault, dans 10 ans, là, il y a 2 scénarios possibles. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Le Québec est devenu souverain.
Mm-hmm. Hein,
parce qu'on a un parti québécois qui trône dans les sondages, qui met de l'avant un référendum. Donc, si dans un des 2 scénarios, le Québec est souverain, à qui va-t-on être obligé de rendre hommage quand va venir le temps de comprendre comment on en est arrivé là? On va parler de René Lévesque, on va parler de Jacques Parizeau, on va parler de Lucien Bouchard, on va parler de Paul-Saint-Pierre Plamondon, et on va être obligé de parler de François Legault.
Et pourquoi? Explique-moi ça.
Ben parce que François Legault a été celui qui a déniaisé le Québec à la suite de l'épisode de la Charte des valeurs de la commission Bouchard-Taylor et qui a ramené les enjeux identitaires dans l'espace public, qui les a retransformés en aliments comestibles. Il n'était pas possible de parler d'immigration sans passer pour un raciste, passer pour un xénophobe. Il a été question de la langue. Il a fondé un musée national de l'histoire malgré contre vents et marées. Il a rendu ces enjeux-là hot. Il leur a redonné un statut respectable et légitime dans l'espace public. Et je pense que n'importe qui a un peu de sens de l'histoire, puis je parle pas de l'histoire des 300 dernières années, est quand même capable de saisir que Paul-Saint-Pierre Plamondon saute sur une trampoline qu'a installé François Legault dans la cour en arrière. Là. Hein? C'est François Legault qui a sorti la trampoline de la boîte, qui l'a montée, puis pas Saint-Pierre Plamondon s'amuse dessus maintenant. L'un ne vient pas sans l'autre. J'ai un deuxième scénario.
Oui, avant, je t'arrête deux secondes. J'aime vraiment ce que tu dis, et j'avais dans ma tête ça, la question identitaire, parce que François Legault a ramené pour moi un nationalisme que, et je le dis moi personnellement, que j'avais perdu, que je n'avais plus. Il m'a redonné la fierté d'être Québécois, la fierté de protéger mon français. C'est important, ça.
Ben, tu réalises-tu... en fait, je pense que tu le fais, mais les gens qui ont... C'est très gros, ce que tu viens de dire.
Ben oui.
Il y a plein de gens au Québec qui sont redevenus, qui ont retrouvé un sens de la québécité avec François Legault, qui est venu leur dire, regardez, c'est important de défendre le français. Nous autres, on vit comme ça au Québec. Hein? Nous autres, on vit comme ça. Il y avait le sens de la formule quand même. C'était assez simple, mais tout le monde le comprenait. Mm-hmm. Le deuxième scénario, je pense que vous me voyez venir. Si le Québec n'est pas souverain, le Québec, il est où? Il est à l'intérieur du Canada dans 10 ans.
Ouais. Hein?
Moi, c'est le scénario qui me plaît le moins parmi les deux. Mais si le Québec est encore dans le Canada dans 10 ans, ben, de qui on va s'ennuyer? Hein? Parce que si le Québec est à l'intérieur du Canada, et qu'on a un Charles Milliard qui est premier ministre du Québec ou un chef du Parti libéral, ben, on va s'ennuyer de cette troisième voie, de cette façon de ne pas faire la souveraineté, mais de la faire en quelque sorte, c'est-à-dire on vote des lois comme la loi 21, la loi 96, on propose un projet de constitution. Si on avait eu plus de temps à la CAQ, on serait peut-être même allé vers la citoyenneté québécoise. Donc, la troisième voie, elle est réconfortante, elle ne règle pas les problèmes. Hein? Je pense que c'est l'indépendance qui règle les problèmes. Mais elle est plus réconfortante pour les nationalistes, et la majorité des Québécois sont nationalistes, que de rester dans le Canada à titre de province et de se fermer à gueule, puis de subir la centralisation des pouvoirs à Ottawa. Donc, dans les deux scénarios, vous voyez, on va au moins avoir un petit sourire en coin quand on va passer à François Legault.
Vois-tu, tu vas dans la thématique que j'avais pensé aussi l'autre, qui était la laïcité de l'État. Parce que pour moi, ça a tellement été important, et je suis né sous la religion catholique. Je devais aller à l'église à chaque dimanche. J'ai été dans les patros qui enseignaient la pastorale. T'sais, donc, j'ai un très grand passé catholique avec ma jeunesse. Mais moi, avec tous les scandales qui sont sortis par rapport aux prêtres et par rapport aux religions, avec tous les scandales qu'on vit dans le monde par rapport à la religion, j'ai décidé complètement de me retirer de la religion. Et la laïcité, pour moi, me parle beaucoup. Mathias Turcotte, t'étais Thomas, es-tu convaincu?
Ben, je comprends le point, parce que pour moi, sur le point de l'identité, François Legault a fait un bon bilan. C'est probablement, de mon point de vue, le seul aspect pour lequel il y a un bon bilan. Mais j'ai l'impression que pour la majorité des Québécois, même dans 10 ans, ce qu'on va se souvenir de François Legault, c'est oui, en partie, cette branche-là si identitaire. Mais ce que le monde va se rappeler beaucoup de François Legault aussi, c'est toute la période pendant la COVID où plusieurs personnes ont appris à détester, mais plus loin que ça, qu'il y a eu une surexposition du personnage politique au point où on s'est écœuré. Également, ce qui est intéressant avec la période Couillard, puis pourquoi j'ai l'impression qu'on se rappelle de Philippe Couillard puis qu'on dit on aurait peut-être besoin d'un gestionnaire économique plus, c'est parce que la qualité de vie à ce moment-là était meilleure aussi. On se rappelle de notre qualité de vie sous Philippe Couillard, puis on se dit, crime, on vivait mieux sous Philippe Couillard. La qualité de vie sous François Legault, j'espère qu'on va pas l'envier dans 10 ans, parce que si on envie notre qualité de vie qu'on a en ce moment, dans 10 ans, j'ose pas espérer, j'ose pas imaginer ça va être quoi. Pour moi, plusieurs Québécois qui vont se souvenir de François Legault, puis c'est pas nécessairement toute sa responsabilité, mais c'est le pouvoir d'achat désastreux, c'est les logements qui coûtent trop cher, c'est la nourriture qui coûte trop cher, puis pendant ce temps-là, un gouvernement qui continue d'empiler des déficits. Pour moi, c'est un peu ça que les personnes vont se rappeler.
Mais c'est un très bon point, sauf que malheureusement, pour ce point-là, ça risque pas de s'améliorer parce que les facteurs sont davantage extérieurs qu'internes, ceux qui expliquent ce phénomène-là. Hein, parce que François Legault pourrait nous répondre à tous les trois, l'écart de richesse avec l'Ontario s'est réduit depuis que je suis arrivé. Mm-hmm. Le Québec n'est pas moins riche qu'avant que j'arrive, mais plus riche.
Statistiquement, il y a justement des spécialistes dans le Journal de Québec aujourd'hui qui prouvent que les Québécois ont plus d'argent dans leur poche. Bon, on le voit pas à cause de l'inflation, ainsi de suite, mais qui prouvent que François Legault a réussi ça. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal hier nous le disait justement avec les baisses d'impôts, les baisses de tarifs, que c'était une réalité.
Mais ce qui arrive, c'est que sur le coup, effectivement, c'est vrai de dire que les gens se rappellent et sont peut-être dans un avenir encore pas si lointain, vont se rappeler de François Legault pour ces raisons-là, en se disant, bon, ben, le coût de la vie, ta, 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 ta. Sauf que quand ça va faire encore 5 ans, puis qu'on va être encore dans le même environnement, là, on va réaliser que ce n'était pas François Legault qui était responsable de ça. Alors que les dossiers identitaires ne seront peut-être pas défendus de la même manière par le prochain premier ministre du Québec s'il est libéral, par exemple. Hein? Donc, François Legault, il a réussi à marquer de cette façon-là son règne. Il n'y a aucun premier ministre qui est parfait. Hein? S'il y a des gens qui se disent nostalgiques de Philippe Couillard, ben c'est seulement pour la question économique. Ce n'est pas parce qu'ils avaient l'impression, avec Philippe Couillard, que le Québec, c'était le Québec d'abord. Donc, peut-être que François Legault, son legs économique ne sera jamais salué. Mais on va se rappeler de quelque chose qu'il a fait que personne d'autre n'avait fait dans l'histoire récente du Québec. La loi 21, et moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est la plus grande loi qui a été votée à l'Assemblée nationale depuis la loi 101.
Je suis très d'accord avec toi.
Mais ça, alors, à ce moment-là, réalisez-vous ce que ça implique. Le gouvernement qui a voté la plus grande loi à l'Assemblée nationale depuis près de 50 ans, bien, c'est un peu obligé d'être un gouvernement qui est dirigé par un grand premier ministre.
418-971-1021, qu'est-ce que vous pensez de justement l'analyse que Rémi Villemur fait de François Legault? Moi, je le dis, je suis de ton avis, Rémi, parce que je me suis retrouvé dans un nationalisme. La loi sur la laïcité, c'est une loi que j'attendais depuis énormément d'années. Donc, je suis porté à penser comme toi, mais s'il vous plaît, 418-971-1021, il y a du monde qui, comme Mathias, disait, on est tellement dans la merde, nous a tellement mis dans la merde avec des dépenses absurdes qui nous a fait perdre que jamais je vais penser ça. Alors, allez-y, 418-971-1021. Qu'on pense ce qu'on veut de François Legault, Rémi, moi, je veux que cette troisième voie-là persiste au gouvernement. Et c'est pour ça que je veux une vraie bonne course à la chefferie pour que la CAQ retrouve un certain lustre et puisse avoir des députés après la prochaine élection pour survivre parce que justement, ce côté-là, nationalisme à l'intérieur du Canada, faut pas le perdre. Faut pas revenir dans notre fameux débat oui ou non fédéraliste, souverainiste. Faut qu'il y ait cette alternative-là pour des gens comme moi présentement.
Oui, puis les fans de politique, j'en suis, vous en êtes, messieurs, vont être bien servis en 2026. Moi, j'avais une grosse inquiétude durant le temps des fêtes. Là, j'essayais de décrocher puis de me préparer aussi à la fois pour l'année qui s'en venait. Puis ma grosse inquiétude, c'était qu'on se fasse complètement submerger par Donald Trump. Ça risque d'arriver quand même. Sauf que là, on va avoir une belle course. La course à la CAQ, on ne l'avait même pas anticipée parce qu'on croyait François Legault qui nous jurait qu'il allait rester. Puis là, on se disait, il n'y a pas vraiment de course chez les libéraux. Ah, oh, ça va être plate cette année en attendant l'élection. Non, là, il va y avoir une vraie course. Puis pour les fans de politique, même s'il risque d'y avoir en majorité des personnages que l'on connaît très bien, parce que de l'externe, en ce moment, il y a juste un candidat dont on parle, et c'est Olivier Primeau. Les autres candidats sont tous à l'interne, mais ça va être tout de même passionnant parce qu'il y a deux ailes à la CAQ, l'aile bleue, l'aile rouge, et elles vont s'affronter, elles vont s'entre-déchirer avec un risque qui est quand même très certain que le parti éclate avant même l'élection. Alors, on va vivre dans un téléroman, là.
Exactement. On va suivre ça attentivement, Rémi Villemur, c'est sûr. Puis on va en parler avec toi à l'émission On en jase. Merci beaucoup, Rémi, pour tes points de vue que, je le dis régulièrement, sortent de l'ordinaire, me font réfléchir. J'adore discuter avec toi.
Bye-bye, les gars.
Salut, Rémi. Bon week-end. Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal, que vous entendez les mardis et jeudis sur les ondes de Boulevard 102.1. Mathias, jusqu'à présent, c'est le coût de la vie qui est retenu. Jusqu'à présent, les autres auditeurs pensent comme toi.
Non, ben c'est aussi... Mais il apporte un point intéressant. Puis pour moi, ce qui va jouer du bilan de François Legault ou non, c'est dans 10 ans, ça va être quoi la priorité? Est-ce que ça va être encore le coût de la vie ou ça va être l'identité québécoise? En ce moment, c'est le coût de la vie. Donc, on a une nostalgie économique. Nostalgie économique, bilan de Philippe Couillard. Si dans 10 ans, c'est encore une nostalgie économique qu'on a, on va pas regarder le bilan de François Legault en disant « Wow, c'était fantastique ». Mais si on se dit « Hey, notre plan identitaire, on est en train de l'échapper, ça n'a pas d'allure », à ce moment-là, effectivement, Rémi a raison, il se pourrait très bien qu'on ait une nostalgie du gouvernement Legault.
Courte pause à Boulevard 102.1. Par la suite, on va dresser le bilan en éducation de François Legault avec l'enseignant et excellent vulgarisateur web Sylvain Duclos. Donc, restez avec nous. On parle éducation après la pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
Je préviens, on jase.
Tu fais bien de nous prévenir parce que c'est vrai qu'on jase. On jase d'actualité, on jase politique, on jase des sujets qui vous touchent. 13h29 minutes exactement. Je le rappelle, la météo, c'est de la neige. Ça va peut-être aller jusqu'à 20 cm de neige aujourd'hui et cette nuit. Il va en tomber un petit peu encore demain. Aujourd'hui, c'est moins 1 degré. Demain, c'est moins 10. Moins 7 alternance soleil et nuages pour samedi et moins 2 pour dimanche. Mathias, circulation?
Présentement, autoroute Duplessis en direction nord à hauteur de boulevard Charest. Il y a présentement une sortie de route, la voie droite qui est bloquée. Également, un léger ralentissement. Présentement, capitale direction est, ça part de Henri IV et jusqu'à Robert Bourassa. Un ralentissement dans le secteur. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Hier, on a discuté longuement du bilan santé de François Legault parce qu'on se disait que c'est à la suite des démissions de Lionel Carmin et de Christian Dubé que François Legault a réfléchi plus attentivement et qu'il a démissionné. Un autre grand pan de notre société, c'est l'éducation. Et pour parler du bilan de François Legault en éducation, un bilan, et je vais citer Le Soleil, l'excellent quotidien ici dans la région de Québec, un bilan mitigé. On va en parler avec Sylvain Duclos, enseignant également vulgarisateur sur les médias sociaux. Sylvain, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Sylvain, merci beaucoup d'être disponible pour nous en jase ce midi. Sylvain, es-tu d'avis du Soleil que le bilan est mitigé en éducation du côté de François Legault comme premier ministre?
Oh oui, je vous dirais que c'est très mitigé. Je pense qu'il y a quand même quelques bons coups, mais globalement, le milieu n'est pas tant satisfait. Puis on espère avoir mieux avec le prochain gouvernement.
Oui, en effet. Qu'est-ce qui est... on sait, présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup d'enseignants non qualifiés, mais si je te demandais un gros raté de la CAQ en éducation, ça serait quoi?
Bien, la première grosse ratée, on va se souvenir, en 2018, la première promesse, c'était l'abolition des commissions scolaires, hein, qui finalement ont été changées pour des centres de services scolaires. On a enlevé un petit peu de démocratie, on a changé les entêtes de papier à lettres et les adresses courriels, mais c'est pas mal tout ce que ça change sur le terrain.
Exactement. Les maternelles 4 ans, est-ce qu'on peut voir ça comme un échec également? Parce que finalement, il n'y en a pas partout, c'est brouillon, on ne sait pas trop à quoi ça sert.
Bien, en fait, je pense que les maternelles 4 ans, ceux qui les enseignants-enseignantes qui le donnent sont très satisfaits, puis je pense que ça a du positif pour les jeunes, on peut se le dire. Cependant, ça avait été promis partout. On a des problèmes de déploiement, on n'a pas le personnel pour le faire, on n'a pas les locaux pour le faire. On vit un peu en concurrence avec les CPE qui font quand même une très bonne job aussi. Donc, le fait de mettre ça partout, je pense que c'était une ratée, à savoir qu'on aurait probablement plus dû prioriser dans les milieux qui étaient plus défavorisés pour mettre l'emphase là et pas promettre ça à tout le monde.
On peut-tu dire au final, parce que le budget a augmenté dans l'éducation au cours des dernières années, on a eu des idées comme la maternelle 4 ans, est-ce qu'on peut dire que le bilan de la CAQ de François Legault des dernières années porte pas nécessairement de mauvaises intentions, mais tout simplement de mauvaises exécutions?
Ben, je pense que l'intention, elle était très bonne. Il y a personne qui remet vraiment en question l'engagement de François Legault envers l'éducation. Je pense que pour lui, l'éducation, c'est hyper important. Il a déjà été ministre de l'Éducation. Cependant, effectivement, dans l'exécution, on a peut-être vu trop grand. Et du reste, surtout, on n'a pas écouté le terrain. Et ça, dans plusieurs dossiers, même en dehors de l'éducation, on faisait à notre tête. Nous, on sait où est-ce qu'on s'en va, on s'en va là. Et ce que les gens en pensaient sur le terrain, c'était très peu important.
Oui, la fameuse centralisation, on a enlevé des pouvoirs aux écoles, on a enlevé des pouvoirs aux directions d'école qui sont des spécialistes pédagogiques, aux enseignants. Dirais-tu, Sylvain, que c'est exactement ça à quoi tu t'attends d'un prochain gouvernement, c'est-à-dire qu'on redonne enfin le pouvoir aux écoles et aux enseignants qui connaissent les besoins de leur milieu?
Bien, c'était d'ailleurs la première promesse de la CAQ en éducation, redonner le pouvoir aux gens qui connaissent les élèves par leur nom. Et on a fait exactement le contraire à ce niveau-là. Et moi, c'était une de mes attentes. Il y a d'autres attentes. Je pense qu'il faut revoir des enjeux de fond en éducation. Mais redonner du pouvoir dans les écoles, je pense que c'est vraiment important. Parce qu'on peut changer certaines dynamiques, sortir des enveloppes budgétaires, faire de la meilleure gestion, puis aller chercher le maximum de chaque dollar qu'on investit en éducation.
Quels sont les trois principaux enjeux que tu vois en éducation que tu veux entendre parler à la prochaine campagne électorale?
Bien, c'est certain que le premier, c'est la pénurie de main-d'œuvre puis la valorisation de la profession enseignante. Il faut s'assurer que les enseignants veuillent revenir enseigner dans les classes. Puis là, je dis enseignants, mais tout le personnel de soutien, les professionnels, on en manque parce que c'est pas attrayant. Deuxième enjeu, je vous dirais que c'est la question de l'école à trois vitesses. Il n'y a pas une partie qui veut toucher ça même avec un bâton. mais il faut se questionner parce que ça a des enjeux, des impacts majeurs aussi sur la rétention de personnel. Parce que nos classes de régulier, on va le dire comme ça, ben, elles sont de moins en moins attrayantes.
C'est des classes adaptées maintenant. C'est des classes en adaptation scolaire.
Ça devient difficile de donner un enseignement régulier, de suivre les programmes dans les classes régulières, effectivement, pour les enseignants qui ne sont pas ferrés, et même pour ceux qui sont ferrés, c'est très, très, très difficile, puis de maintenir des attentes dans ces classes-là, effectivement. Et je vous dirais que le troisième, c'est de revoir toute la politique au niveau de l'adaptation des apprentissages, puis des élèves en difficulté, parce que je pense qu'on investit pas notre argent comme il faut. On patte des trous. On fait comme sur nos routes. On met de l'asphalte, puis deux mois plus tard, c'est à refaire. Ben, on n'aide pas bien nos jeunes, puis au final, on met un petit peu de l'argent au feu, malheureusement.
Ça, c'est les trois enjeux principaux. Mais par exemple, un gouvernement arriverait demain. Je vous demande pas un enjeu, je vous demande vraiment une action concrète. Quelle action concrète, dans l'immédiat, un nouveau gouvernement devrait-il faire en premier?
Ben, en fait, je pense que la première des choses, ce serait de déclencher une grande consultation en éducation pour que les acteurs puissent se mettre tout de suite à parler et à sortir des grandes orientations. Ça se fera pas en deux mois, on s'entend. Donc, il faut que ça se fasse vite pour que ça puisse commencer à être exécuté dans un premier mandat. Ça, je pense que ce serait vraiment la priorité numéro un. Ensuite, je pense qu'il faut revoir tout ce qui est les tâches connexes des enseignants et du personnel pour leur dégager du temps de travail, pour qu'ils arrêtent d'être loadés et qu'ils puissent mettre leurs énergies sur nos élèves, particulièrement sur la difficulté.
Sylvain Tutelot est enseignant aussi vulgarisateur sur les médias sociaux en matière d'éducation. Merci beaucoup, Sylvain, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Puis on va souhaiter très ardemment que ce que tu veux, bien le prochain gouvernement te l'offre.
Merci beaucoup, une bonne journée.
Fait plaisir, Sylvain, au plaisir de se reparler. Sylvain Duclos, enseignant et vulgarisateur sur nos médias sociaux. Mathias, les sports.
Oh oui.
Le Canadien de Montréal, ce soir, affronte les Sabres de Buffalo. Les Sabres sont complètement en feu.
Hey, c'est fou, raide, hein?
Depuis que leur directeur général a dit « Savez-vous quoi? Il n'y a personne d'intouchable à Buffalo. » Moi, je pensais qu'il se mettrait encore à jouer encore plus mal. Parce que je me disais « Il n'y a personne qui veut vivre à Buffalo quand tu peux aller jouer à Los Angeles ou à Tampa Bay. » Ben non, ça a été littéralement un catalyseur pour cette équipe-là, si bien qu'à leurs 16 derniers matchs, ils ont 14 victoires et 2 revers. Ils ont battu les Flyers de Philadelphie à domicile hier 5-2. Ils reçoivent le Canadien de Montréal ce soir 19h, un Canadien qui a perdu en prolongation contre les Capitals mardi 5-3. Les Sabres ont maintenant 54 points. Ils sont la meilleure équipe repêchée, donc 7e dans l'Est. Le Canadien en a 59, mais les Sabres ont 2 matchs en main sur le Canadien. Donc, match super important pour le classement.
Cette saison, tous les matchs qu'ils jouent dans notre division sont hyper importants. Puis il faut se mettre ça en tête. On a une course aux séries complètement folle qui commence à se dessiner, là. Les premiers de la division, c'est Lightning à 61 points. Puis les derniers, c'est Sénateur à 49 points. Mm-hmm. C'est 12 points de différence entre les premiers puis les derniers. Ça va se jouer jusqu'à la fin. Ce soir, contre les Sabres, tu l'as dit, c'est un défi. On pensait pas dire ça au début de la saison qu'on allait affronter Buffalo, mais maintenant, ça l'est. C'est un défi. Chaque fois qu'on affronte les Sabres, il faut être prêt. Ils sont en feu dernièrement. Ce soir, Jacob Fowler devant le filet. Ça va être le fun à voir parce que là, on a une chaise musicale qui continue. Puis la raison, c'est que Jacob Fowler continue de bien gauder.
Ah, moi, je continue avec ma prédiction. C'est Jacob Dobesch qui va être retourné dans les ligues mineures parce que le Canadien de Montréal croit vraiment que ça passe par Fowler de le présent.
Puis il faut dire, mettons qu'on embarque là-dedans très rapidement, Jacob Fowler a une technique presque parfaite, j'ai envie
vraiment
de dire. Les déplacements, le positionnement, c'est fantastique. Du côté de Jacob Dobesch, on ne peut pas dire la même chose. C'est un gardien qui utilise beaucoup sa grande taille, le fait qu'il est imposant
devant
le filet. Il est
pris hors position régulièrement.
Souvent pris hors de position, laisse beaucoup de retours aussi, ce qu'on ne voit pas nécessairement chez Fowler. Plusieurs mauvais retours chez Dobesch. Fait que de dire à Jacob Dobesch, qui est encore jeune, on le rappelle, c'est sa saison recrue, de dire, hey, tu vas revenir en bas, puis tous ces petits aspects-là, tu vas aller les perfectionner pour potentiellement remonter. Ça pourrait pas être complètement fou du côté du Canadien, surtout quand t'as un Fowler qui goal aussi bien. Bien sûr, ce soir également, trio des jeunes encore à surveiller, notre meilleur trio depuis plusieurs matchs, Slavkovski, Kapanen, Demidov. Je continue de le dire, les trois sont toutes toutes qu'il y a des joueurs à en devenir.
Deux autres nouvelles sportives rapidement. John Harbaugh, qui dirigera les Giants de New York, ça se confirmerait dans les prochaines heures. John Harbaugh, c'est l'ex-entraîneur des Ravens de Baltimore, âgé de 63 ans. Il a passé les 18 dernières années à la barre des Ravens. Il a gagné un Super Bowl. Il a 180 victoires en carrière. Donc, Harbaugh aurait rencontré justement l'état-major des Giants hier. Et le corps arrière Jackson Dart faisait partie de la réunion. Donc, Harbaugh irait dans la grosse pomme, vraisemblablement. Et il y aura une décision imminente pour Kyle Tucker, cet excellent voltigeur qui est agent libre à l'heure actuelle dans le baseball majeur. Les Blue Jays de Toronto restent au plus fort de la course. Donc, Tucker songerait grandement à déménager au Canada. On parle également des Mets de New York comme une possible destination pour l'ex-voltigeur des Cubs de Chicago, qui a joué également avec les Astros de Houston et qui a gagné la Série mondiale en 2022. Donc, ça va être un dossier à suivre. Après la pause, Mathias, on va se faire un petit cours d'histoire avec nos auditeurs. On va parler avec Louise Arel, ex-ministre des Affaires municipales, ex-chef du Parti québécois. Elle va nous raconter comment ça s'était passé en 2001 lorsque Lucien Bouchard a annoncé sa démission qui a mené au couronnement de Bernard Landry à titre de chef du PQ. Parce que souvent, ce qui s'est produit dans l'histoire, ça se produit aussi dans la réalité. Alors, c'est pour ça qu'on va parler avec Louise Arel immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. L'émission On en jase qui tire déjà à sa fin, il est 13h45. Merci beaucoup d'être présent en si grand nombre. C'est un privilège pour moi de faire de la radio sur les ondes de Boulevard 101, de pouvoir vous parler. Je regardais, c'est la visite à l'heure actuelle de la gagnante du prix Nobel, Maria Corina Machado. Elle va visiter la Maison-Blanche, elle va aller visiter Donald Trump. Évidemment, ça, c'est une rencontre très suivie compte tenu de ce qui se passe présentement au Venezuela. Et ça tombe bien parce que demain, dans l'émission On en jase à 13h, alors que je vais être absent parce que je suis à l'Apocatière en tournoi de hockey, ça va être Yannick Marceau et Mathias Turcotte avec vous. Marceau reprend sa petite chaise de l'heure du midi. Donc, il y aura Luc Laliberté qui va être avec vous aux alentours de 13h pour en discuter de cette visite et de plein d'autres choses qui concernent les États-Unis et Donald Trump. Également, à l'émission demain, ne manquez pas le segment Lambert Drainville, Farnell, Morisset. Vous allez notamment parler de est-ce que les ministres qui se présentent à la course à la chefferie de la CAQ devraient demeurer ministres ou se retirer de leur poste? Je trouve ça très intéressant comme question.
C'est une bonne question, rapidement de même. Mettons rapidement de même, j'ai envie de te répondre oui, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça.
C'est ça. Et avec Alex Laramé, vous allez pouvoir faire le retour sur le match canadien de Montréal et également les quatre matchs dans la NFL qui vont suivre. Puis évidemment, Mathias et Yann, vous allez trouver plein d'autres sujets à parler.
Oui. On va avoir du fun.
Confiance en vous. Mathias, je le dis souvent aux auditeurs, je te le dis souvent, je suis un crack de politique. Je suis tombé dans la politique très jeune parce que c'est mes parents qui m'ont amené à m'intéresser à la politique. Nous, on mangeait avec la TV dans la cuisine parce qu'on écoutait les nouvelles. On s'intéressait à ce qui se passait. Et ça me fait toujours plaisir de recevoir à l'émission une personne politique que j'ai beaucoup respectée et que j'ai vue régulièrement dans l'actualité avec mes parents. Et c'est le cas de l'ex-ministre des Affaires municipales au niveau du gouvernement provincial avec le Parti québécois, ex-chef également par intérim du Parti québécois. On a au bout du fil Mme Louise Arel. Mme Arel, merci beaucoup de vous être rendue disponible pour nous aujourd'hui.
Mais vraiment très, très plaisir. Oui. Je ne sais pas s'il neige autant à Québec qu'à Montréal.
Ah, ça commence, je vous dirais. Il neige pas autant, mais ça s'en vient. On annonce jusqu'à 20 cm de neige.
Oui, c'est ça.
Donc, ça va être particulier. Madame Arel, je veux qu'on regarde avec vous. Je veux qu'on refasse l'histoire parce qu'en 2001, vous étiez dans le gouvernement Péquiste qui a vu son premier ministre, Lucien Bouchard, démissionner. Expliquez-moi comment ça s'est passé à ce moment-là lorsque Lucien Bouchard démissionne. Est-ce que tout le monde est pris par surprise comme les députés de la CAQ ont été pris par surprise hier?
Oui, mais il y a quand même des différences. Hein. En 2001, rappelez-vous que les sondages ne demandaient pas du tout à Lucien Bouchard de partir. Là.
En effet.
Lucien Bouchard avait un aura à ce moment-là de premier ministre et aussi presque de miraculé là, après sa terrible maladie. Et donc, il était encore très, très, très haut dans les sondages. Et puis, je regardais à nouveau l'état de 2001 en matière de sondage. Le PQ faisait 42 % encore à l'époque. Donc, les comparaisons sont difficiles parce que avec la CAQ, même si ça s'est produit à 3 jours d'avis, parce que vous savez que c'est à 3 jours en janvier 2001 pour M. Bouchard, puis le 14 janvier 2026 pour François Legault, mais il demeure que c'est un parti qui, dans les sondages les plus récents, et même ceux de l'automne passé, était presque en marge et avait presque mission de disparaître. Hein?
Le contexte était complètement différent. Dites-moi donc, quand un chef démissionne comme ça, est-ce qu'il y a plusieurs personnes, déjà, là, quand la démission vient d'être annoncée, qui prennent le téléphone puis qui commencent à valider leur appui pour savoir « Ah, est-ce que je vais être appuyé pour la possible course à la chefferie? »
Monsieur Fortin, quand le roi est mort, vive le roi. c'est inévitable. C'est parce que la politique a horreur du vide. Et ça n'existe pas, le vide, en politique. Il y a toujours un peu comme... Moi, j'ai toujours comparé ça à de l'eau. L'eau envahit tout, mais c'est la même chose en matière politique, c'est certain. Et ça s'est passé différemment parce que à ce moment-là, au départ de Lucien Bouchard en 2001, il y avait vraiment 3 personnalités qui pouvaient prétendre à devenir son successeur, c'est-à-dire Bernard Landry, Pauline Marois et François Legault. Et donc, ça s'est passé entre les 3. Parce que finalement, ça a été un couronnement.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a amené au couronnement, justement, là? Rappelez-moi, je pense que François Legault, à ce moment-là, était jeune, n'a pas réussi à aller chercher assez d'appui. Mais Pauline Marois s'était présentée à l'époque, en 1985, lorsque René Lévesque avait démissionné. Puis on se souviendra que c'est elle, après ça, qui a quand même contribué à faire en sorte que Bernard Landry tombe.
Bien, en fait... Je peux vous en parler ouvertement. En 85, j'étais là et j'appuyais Pauline. Mais ceci étant, en 2001, François, ça s'est passé entre les 3, puis ça a été un jeu de chaise musicale. Et ça a fini par le couronnement de Bernard parce que, semble-t-il, que François Legault aurait donné, selon... Enfin, jamais les conditionnels, hein, parce que c'est des... Pauline a toujours dit que François Legault allait l'appuyer. Et finalement, François Legault a appuyé Bernard Landry. Et donc, c'est Bernard qui a été un peu couronné. Mais ça a duré 4 ans. Regardez, en 2001, là, puis ça s'est résolu jusqu'en 2005. Alors, ça a duré 4 ans. Les couronnements, ça ne permet jamais de départager les appuis. Et la personne écartée a toujours le sentiment que si elle avait eu l'occasion, c'est peut-être elle qui aurait réussi.
Mais si, même si on n'assiste pas à un couronnement, on va assister à une course. On se retourne...
Oh mon Dieu, oui. Mon Dieu, pas n'importe laquelle des courses. Oh mon Dieu, M. Fortin, il y a la moitié du Conseil des ministres qui veut être candidat ou candidate.
Ben justement, si je me fie à votre histoire, ça reste que les appuis ont été importants. Est-ce que des appuis que les différents candidats vont avoir des différents membres du parti actuel vont être tout aussi importants dans le cadre de la course qui s'en vient?
Évidemment. Regardez, là, Gilles Bélanger, le premier ministre, qui annonce publiquement qu'il va appuyer Mme Christine
Fréchette.
Alors ça, c'est de l'avance, ça, monsieur, là. Oh, parce que c'est déjà... C'est très, très, très significatif. Je ne sais pas si M. Bélanger avait eu le feu vert de Mme Fréchette pour cette déclaration, mais chose certaine, stratégiquement, là, ça, c'est très, très, très important. Ceci dit, la coalition Avenir Québec n'est pas au bout de ses peines. Je ne sais pas si vous vous rappelez des déclarations, parce que François Legault, avec qui j'ai siégé pendant 10 ans de ma vie, là, quand il était au Parti québécois et moi aussi, François Legault, il a fait beaucoup de déclarations. Vous savez, l'automne passé, et je vais le citer au mot, il a dit « Ce n'est pas toujours facile de garder ensemble une aile plus économique et une autre plus nationaliste. » Et il disait « C'est une des raisons pourquoi je reste. » Et il ajoutait, il faut que je garde les deux ailes entre, ensemble, disait-il. Bon. Alors, vous voyez, c'est que la coalition Avenir Québec, là, a pas le ciment ou le ferment, que, par exemple, un parti, fédéraliste comme le Parti libéral, mais un parti souverainiste comme le Parti québécois. Ah, c'est-à-dire que l'Avenir Québec, c'était supposé durer juste deux mandats au départ, et il y a à la fois des nationalistes fédéralistes et souverainistes, et vous avez à la fois des gens qui sont vraiment plus progressistes et d'autres plus conservateurs. Il y a même question que M. Éric Girard est en train de réfléchir à se présenter, là, l'actuel ministre des Finances. C'est quasiment la moitié du Conseil des ministres qui est en train de réfléchir.
Est-ce que ça vous étonne, et je termine l'entrevue avec ça, est-ce que ça vous étonne qu'il y ait autant de prétendants à l'heure actuelle ou vous en attendiez compte tenu justement que c'est une coalition avec plusieurs personnes qui ont plusieurs idéologies différentes?
Effectivement, comme vous le dites, c'est une coalition. Alors, comment M. Legault transcendait, parce que c'était le père fondateur, mais là, il va y avoir que des chefs adoptifs. Là. Alors, c'est des ailes qui, est-ce qu'elles sont solubles entre elles? Là, c'est pas certain, là, ça.
Oui, en effet.
Alors, Ça va être à suivre. Ça va être intéressant.
Madame Harel, merci énormément de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Si vous permettez, je vais peut-être vous relâcher un petit coup de fil durant la course à la chefferie de la CAQ pour avoir votre opinion.
Avec plaisir. Moi, vraiment, j'apprécie. J'aime ça parler aux gens de Québec.
Oh, on est tellement du bon monde dans la capitale nationale.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Madame Harel.
Au revoir,
bonne journée. C'était Louise Harel, ex-ministre péquiste, ministre notamment des Affaires municipales, ex-chef par intérim également, quand Bernard Landry avait subi le fameux push de Pauline Marois. Mathias, l'émission tire déjà sa fin. C'est le retour de Gravel qui prend l'antenne dans quelques instants, c'est-à-dire à 14h, avec Denis Véraud et Audrey. Et tu seras là également pour venir présenter ce que tu es allé voir aujourd'hui, c'est-à-dire conférence de presse au Port de Québec. J'imagine qu'on a parlé du projet QSL. Hein?
Oui, on a parlé du projet QSL. On va revenir un peu rapidement sur la vision Ville-Port. Aussi, on va parler du troisième lien parce que j'ai eu des réactions de Bernard Drainville et Jean-François Simard et de leur potentielle candidature à la course à la chefferie parce que comme ça semble être la tendance chez la CAQ, personne ne ferme la porte.
C'est jeudi pour moi. Demain, je suis en tournoi de hockey à la Pocatière et pour toute la fin de semaine. Donc, on se reparle lundi. C'est Yannick Marceau et Mathias Turcotte qui vont vous accompagner dans l'émission On en jase. Mathias va également être là dans l'émission du matin avec Yannick Marceau et Maxime Larouche. En attendant, le retour de Gravel prend place avec Denis Véraud-Audrey. Et c'est Marceau le soir à 18h. Ne manquez pas ça. Entretien d'une heure avec Charles Milliard, sûrement le prochain chef du Parti libéral du Québec. C'est une entrevue exclusive de Boulevard 102.1. Je dis exclusive parce que c'est dans la longueur. Charles Milliard ne donne pas des entrevues d'une heure normalement, mais il a accepté de le faire pour les bénéfices de nos auditeurs. Merci beaucoup, guys, d'être à l'écoute. On se dit bye-bye et dans mon compte, on se reparle lundi.
Bonne journée.